Nous sommes en octobre 2017 et vous écoutez l'épisode 90 chronique de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Dédé Schutz et pour ce second épisode, je suis accompagné de Paul Gara. Salut Paul Gara.
Bonsoir Dédé et merci beaucoup pour ton invitation à venir présenter ces chroniques avec toi. Je me sens hyper flattée.
De rien, c'est naturel. Maintenant que tu es chroniqueuse, tu pourras nous parler un peu de tes chroniques. Et merci à la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux sur philibernet.com. Et un grand merci toujours à nos tipeurs de soutenir ce podcast et à la famille Blu pour son don en nature. Et on va attaquer tout de suite avec un peu d'actu. Donc si vous nous écoutez, normalement, vous êtes sur la route du retour d'Essen. Vous avez déjà bien joué. Toi, tu y vas à Essen, Paul Gara?
Eh bien, non. Pendant que vous serez tous en pèlerinage à Essen, moi, je serai en pèlerinage à Rome. Donc, désolé, excusez-moi. C'est pas exactement le même genre d'activité, mais... Non, je plaisante, hein. Je vais juste visiter, hein, je vous rassure.
Mais tu emmènes quand même des jeux dans ta valise.
Oui, donc je pense, je vais faire plaisir à tout le monde, je pense que Paper Tales rentrera très bien dans la valise une fois la boîte enlevée. Voilà.
Tout de suite, tu commences à... avec les polémiques.
Ouais. Ben oui, c'est en ce moment, il y a beaucoup de choix, donc je pouvais pas m'en empêcher.
Ok, alors on a aussi un festival. Alors tu voulais parler d'un festival.
Oui, alors
le 18 novembre, c'est
voilà,
ça.
Voilà, le 18 novembre, donc aura lieu le festival des jeux de Gouvieux. Donc Gouvieux, une ville charmante de l'Oise, pas très loin de Paris, hein, pas 40 kilomètres. Donc je me permets d'en parler parce que c'est mon association qui l'organise. Donc ce sera sur une thématique Halloween avec deux tournois, King Domino Splendor. Et si vous venez, vous aurez le bonheur normalement de me voir déguisé en zombie. Donc je vous encourage à venir. C'est entrée gratuite, c'est interdit aux moins de 12 ans, ce qui ne va pas du tout avec ma chronique. mais bon, voilà, c'est un choix pour éviter de se retrouver en garderie du samedi improvisée. Ben voilà, enfin pour tous les Parisiens ou proches Paris, n'hésitez pas à venir. Paris. Ouais, voilà.
Plutôt dans l'est de Paris, c'est ça.
Non, c'est plutôt le nord.
Nord-est.
Ouais, nord.
C'est plutôt le nord.
Ouais.
Hein, nord.
Oui. C'est les Hauts-de-France maintenant. Donc en haut de la carte, on est là et coin est très joli, donc vous pouvez coupler ça avec un petit week-end voilà, en amoureux à Chantilly, et vous venez le samedi jouer, puis le dimanche vous allez vous promener au château et voilà.
Voir une course de cheval.
Ouais, c'est dommage parce que l'Arc de Triomphe est passé, donc qui est la plus grosse. Ouais, mais sinon oui, vous pouvez toujours venir. Ça vaut le coup. Je ne travaille pas pour l'office du tourisme, je vous rassure.
Ok, on viendra alors le 18 novembre à Gouvieux, dans l'Oise. Et on va attaquer donc avec cette première chronique. Une chronique de Père Castor et Flavien, où ils nous parlent du thème du jeu. Et le jeu de ce mois-ci, c'est Imperial Settler de Ignacy Trevicek. Et on les écoute tout de suite. Tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, je rêve de toi. Tellement je t'aime, passionnez-moi. Tellement je t'aime, à la folie. Tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, je rêve de toi. Et tellement je t'aime, à la folie. Yeah, yeah, yeah.
Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs et bienvenue dans votre nouvelle chronique sentimentale, Tellement je t'aime. Je suis toujours accompagné avec Flavien, salut Flavien.
Salut Père Castor et je pense à toi.
Ouais, moi aussi. Alors j'ai devant les yeux une belle boîte carrée avec une espèce de bavarois moustachu qui se promène avec une pelle à la main. Et dans cet épisode on va vous parler du jeu Settlers et notamment comment est-ce qu'il arbore la thématique.
Tout à fait, parce qu'on le rappelle rapidement, chaque épisode de Tellement je t'aime... on aborde un jeu sans dire vraiment ce qu'on en a pensé ludiquement, si ça nous plaît ou pas, même si forcément ça va plus ou moins transparaître, hein, mais plus par l'angle de la thématique. On avait fait Terraforming Mars le mois dernier, et là donc c'est Settlers, sous-titré
Naissance d'un empire.
Birth of an Empire, qui n'est pas du tout présent sur la boîte anglaise que moi je possède. Toi tu as la
boîte française, ouais, qui porte même pas le même nom au final. puisque c'est Imperial Settlers. Et après, on verra, ben, est-ce qu'on a vraiment l'impression de manipuler un empire, au final? On verra ça en fin de chronique.
Ce sera un peu la conclusion. Effectivement, le titre anglais, c'est, en fait, la notion d'empire est directement dans le titre principal. Alors que là, le titre étant en anglais, Settlers, qui veulent dire les colons, hein, ben, ils se sont sentis obligés de mettre un sous-titre français, comme dans les films français qui gardent un titre anglais ou qui le modifient parfois.
Et on a même une petite phrase d'accroche, donc le jeu de cartes et mener votre civilisation à la victoire. Je sais pas si on a ça sur la boîte anglaise. On a un petit texte, mais qui est pas au même endroit.
Alors sur la boîte anglaise, effectivement, il est pas au même endroit. C'est un peu quand même la même idée. Même s'il y a un côté plus mignon, c'est a card game with civilizations to care about. Donc c'est dont il faut s'occuper.
On en prend soin.
Voilà, il y a un côté moins compétitif que dans la boîte française. Alors très rapidement, quand tu vois Père Castor, cette boîte, qu'est-ce que ça t'évoque?
Bah, la première chose, on a l'impression de voir un village autrichien des années 1800.
Ça chante le tyrolien.
Voilà, c'est ça, en plein essor, très paisible, très dans une ambiance assez verte, assez mignonne et assez paisible au final.
Un petit début d'Age of Empires, un petit peu. Le tout début de la partie.
Voilà, même si c'est pas du tout la même période, hein, au début d'Age of Empires, en tout cas le numéro 1, je sais pas si c'est à celui-là que tu pensais.
Ouais, peu importe, ouais, c'est le côté petit village où t'envoies tes mecs aller piocher, puis aller couper quelques trucs de bois et tes premiers bâtiments, là c'est vraiment petit village, quoi. C'est vrai que le côté empire est pas trop...
Ceux qui ont joué à la version iOS d'Agricola, c'est un peu la même ambiance qu'on retrouve au final.
Et une ambiance, on en a parlé plusieurs fois des gens ensemble, pas forcément dans cette chronique, mais de manière générale dans Proxy Jeux, une ambiance mignonne, rondouillarde, qui a repris par exemple un peu Vianney Bulla par la suite.
Voilà, un peu opulente, un peu on n'est pas dans le besoin, on voit que les champs de blé sont bien garnis, ils ont l'air de manquer de rien, il y a des animaux qui se baladent, des animaux de ferme, c'est verdoyant, très chatoyant.
Et Settlers, c'est un peu un des premiers à avoir pris cette esthétique un peu justement assez cocooning, disons, au niveau de voilà, tout si je suis un peu rondouillard, un peu et par la suite, il y en a plusieurs qui ont pris cette voie-là.
Pourtant, on pourrait croire à la base en regardant la boîte que ça s'adresse à un public familial, mais alors qu'au final, c'est un jeu qui est très technique.
Ouais, après il est abordable quand même par des joueurs le familial plus, je trouve que le public visé et la thématique de la boîte et la manière dont elle est représentée, je trouve pas ça absurde. Dans l'absolu, c'est pas un jeu qui est très complexe quand même. J'ai déjà joué moi avec des gens qui avaient pas forcément l'habitude des gros jeux et ça fonctionnait. Alors effectivement, il y a un côté technique qu'ils maîtrisaient peut-être pas.
Ça dépend du degré d'implication des joueurs, parce que si tu commences à vraiment vouloir optimiser au maximum et être, comme on l'avait dit avant dans notre partie, super efficient par rapport à tes ressources, c'est vraiment rentable, voilà, et de l'utiliser au plus juste.
À flux tendu, ouais.
Ça demande quand même une certaine agilité de l'esprit, on va dire.
Ouais, et puis c'est un jeu qui demande aussi pas mal de parties, peut-être pour justement prendre en compte les différentes cartes, savoir sur quoi tu vas tomber. Je vais passer à la présentation, comme on le fera à chaque épisode, de la petite présentation du jeu qui sera un peu plus courte que celle de Terraforming Mars. Et cette fois, on n'a pas la Mars Society qui vient, voilà. Qui vient mettre son seal of approval. Alors, dans le texte, les colons de quatre grandes puissances mondiales ont découvert de nouvelles terres riches en ressources et opportunités. Les Romains, les Barbares, les Égyptiens et les Japonais s'y rendent aussitôt pour repousser les frontières de leurs empires respectifs. Et ils y construisent de nouveaux bâtiments pour renforcer leur économie. Creusent des mines et cultivent des champs pour collecter des ressources et construisent des casernes et autres terrains d'entraînement pour former des soldats. Mais ils s'aperçoivent bientôt que la région est trop petite pour tout ce monde et la guerre ne tarde pas à éclater. Settlers, Naissance d'un Empire, est un jeu de cartes qui permet à chaque joueur de prendre la tête de l'une de ces quatre factions. La partie se déroule en 5 rounds, au cours desquels les joueurs explorent de nouvelles terres, construisent des bâtiments, échangent des ressources et terrassent leurs ennemis pour marquer des points de victoire. Un texte en deux parties, d'abord le côté thématique et ensuite un peu le comment ça va se traduire en termes de jeu. On est un peu dans une espèce de truc qui n'existe pas en fait. Hein.
C'est ça, c'est l'arrivée sur la Terre promise.
C'est ça, c'est en fait parce que c'est des civilisations.
Elles existent déjà en fait. C'est vrai qu'on s'était posé la question, est-ce qu'on est en train de fonder un nouvel empire tel que le laisserait penser le texte de sous-titre? Mais au final, pas du tout, on est juste en train de créer un nouveau bras en fait à cet empire dans une nouvelle terre.
Chacun des joueurs en fait ouais essaye d'étendre son propre empire, il en crée pas un nouveau. Et du coup, en fait, sur une terre où les quatre factions vont se côtoyer, ce qui est, on en a parlé thématiquement, en fait.
Et même géographiquement, compliqué, ouais.
Compliqué. Je sais pas où c'est qu'ils se retrouvent, quel point. Ça. Surtout avec les extensions, on dira quelques mots des extensions, mais il y a des Atlantes et il y a
les Aztèques, ouais.
Les Aztèques, donc. Où est-ce qu'ils arrivent à se retrouver pour tous être au même endroit? Je ne sais pas.
Est-ce que les Japonais ont rencontré les Aztèques? Voilà. C'est ça la question.
Il y aura peut-être une extension viking par la suite. Et du coup, ouais, thématiquement, ces populations ne se sont en fait pas vraiment rencontrés, hein, que ce soit les Romains et les Japonais, alors peut-être qu'ils se sont rencontrés
de manière fortuite, hein.
C'est ça, ouais, au détour d'un casino peut-être, mais il y a quand même plusieurs civilisations qui ont historiquement eu peu de liens ensemble et qui là sont mises les unes face aux autres. Le but du jeu, c'est tout simplement d'accumuler le plus de points de victoire que l'on gagne en étendant son empire et en gênant ses adversaires. Voilà, c'est là aucune thématisation.
Bon, clairement, on n'est pas dans une reconstitution historique, hein. On n'est pas du tout dans un jeu à la Nation, Civilization ou Through the Ages, hein. On est, on va dire, dans une thématique beaucoup plus légère, hein, même si mécaniquement, c'est une autre affaire.
Voilà, et le joueur qui a le plus de points de victoire a bâti le plus grand empire, pas forcément a mis le plus de cartes d'ailleurs, donc c'est pas forcément le plus grand en termes de superficie de cartes, mais il gagne la partie. Donc c'est vraiment une victoire purement mécanique. Là, la thématique est complètement absente, effectivement. Je te laisse présenter le jeu très rapidement, les principes, hein, même si, encore une fois, on va pas vous expliquer comment ça fonctionne dans les grandes lignes, enfin dans les détails. On va justement plutôt aller dans les grandes lignes.
Bah, du coup, c'est un jeu à base de cartes où on va avoir des paquets de cartes communes, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être construites par tous les empires, et chaque empire dispose de son propre paquet de cartes de type faction, où seul lui va pouvoir construire des cartes qui appartiennent à son empire. Bon, en gros, à chaque tour, on va produire, on va choisir les cartes que l'on va poser, on va avoir de l'interaction, on va pouvoir aller s'attaquer gentiment aux cartes de l'adversaire, et on va également pouvoir déclencher des effets sur notre empire. Donc il y aura de la recherche de combos, il y aura de la recherche de rentabilité, donc produire les ressources à leur juste valeur par rapport à ceux dont on a besoin pour construire des nouveaux bâtiments.
Je sens qu'on en parlera plus tard, mais on ne peut pas les conserver toutes à la fin du tour, ce qui est peut-être un problème thématique, mais qui mécaniquement justement crée cette frustration et ce besoin de flux tendu. Dans l'idéal, en fait, faut finir le round avec zéro ressource que tu ne peux pas conserver parce qu'il faut les avoir utilisées, ce qui est pas forcément facile à ce niveau-là.
Sachant ce qu'on n'a pas dit et qui est assez important dans le jeu, c'est qu'on a affaire à un jeu asymétrique. On a la partie commune avec les cartes communes que tout le monde va pouvoir construire si bien sûr on les a piochées, mais les factions ont leur propre orientation de jeu. Donc certaines factions sont spécialisées dans la production de certaines ressources, qui va donner lieu à certains types d'actions. Si je prends par exemple les Romains, ils vont produire beaucoup d'épées, ce qui va permettre de déclencher beaucoup d'attaques chez l'adversaire.
Ou d'attaque chez soi-même.
Ou chez soi-même, ouais. On en verra sur l'aspect thématique, notamment de ce type d'attaque. Et à l'opposé, le peuple des barbares, par exemple, eux, ils vont surtout être spécialisés dans la production de personnages. Voilà, dans la reproduction, voilà, ils copulent comme des lapins, on va dire. Et ça va permettre d'autres types d'actions, propre du coup aux barbares.
Ouais, déjà il y a ce côté-là effectivement qui apporte du thème, c'est qu'il y a plusieurs factions, donc on est effectivement à la tête de différents empires, donc au moment du choix des factions, alors soit on prend au pif, soit on prend mécaniquement, parce que là on a fait une partie avant, j'avais jamais joué les Égyptiens, pas spécialement que j'aime l'Égypte, je ne suis pas Guillaume Montiage, mais je me suis dit tiens, on va essayer, j'ai jamais pris, pourquoi pas, mais mine de rien, pour justement le familial plus ou les nouveaux joueurs, ça peut être un choix plus d'affinité en se disant je préfère les barbares, ou de facilité, les barbares sont assez simples à jouer parce qu'ils sont assez souples notamment.
Ouais, mais encore une fois, je suis pas sûr que ça soit un jeu qui s'adresse au familial plus, bon, ça c'est un autre débat.
Et du coup, effectivement, cette asymétrie et ces spécificités de faction vont se retrouver à la fois dans les phases de production, dans ce qu'on va réussir à conserver, et puis même dans la dynamique de jeu qui va pas forcément être la même, et qui va un peu justement thématiser, essayer de coller un peu au peuple qu'on a choisi. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on passe aux différentes phases et qu'on voit à quel point est-ce que finalement c'est thématique ou pas. On va commencer par la phase d'observation, qui est un espèce de draft ouvert.
C'est ça, alors bon, on regarde, on est en train d'espionner entre guillemets ce que fait l'Empire d'en face pour voir quelles sont les cartes que l'on va prendre. Alors après, bon, les cartes, on en revient un petit peu à ce qu'on avait dit dans Terraform Lima, c'est ce que ça représente de la R&D, c'est bon. Thématiquement, c'est un peu difficile à poser, là.
Ouais, autant Terraforming Mars, le terme de recherche et développement est assez pertinent parce qu'on est dans un côté contemporain futuriste où ça a une importance réelle. Autant,
bon, là, on pourrait dire que, comme certaines cartes représentent des lieux de production comme des mines, des carrières, des forêts, On pourrait imaginer qu'on envoie des expéditions ou des éclaireurs aller chercher des lieux un peu fertiles. Bon.
C'est des projets, en fait, plus que de la recherche et développement. Mais c'est vrai que la phase d'observation, alors on voit bien le Bavarois, peut-être qu'il va en haut de la colline, là, pour aller avec ses petites jumelles, regarder.
C'est ça, il y a des pommiers là-bas, donc il y a peut-être des choses intéressantes.
C'est vrai que, ouais, phase d'observation, bon, en plus, on voit tous les mêmes trucs. Ouais, c'est vrai que thématiquement, c'est un peu délicat. Après, la phase de production.
Plus classique, plus thématisable, forcément, et plus concrète, hein, on va dire.
Mais thématisée dans tous les jeux, quoi. Pour le coup, qui n'est pas une spécificité au jeu, c'est, je peux produire tel truc, ça me rapporte telle ressource que je vais pouvoir utiliser par la suite pour construire d'autres trucs.
C'est ça, j'ai à ma disposition une forêt, donc naturellement, je vais avoir du bois à disposition, j'ai construit une carrière de pierre, et ben je vais récupérer de la pierre, etc. Donc ça, ce qu'on retrouve dans tous les jeux de développement.
Sachant que c'est là qu'on trouve justement thématiquement peut-être les factions qui vont apporter un petit plus, avec par exemple les barbares qui vont produire beaucoup de personnages. Pour faire très court, les personnages, en fait, s'il y a une action qui permet toujours d'en transformer deux en une autre ressource, donc ça apporte vraiment de la souplesse. Alors que les barbares.
Qui s'explique mécaniquement, du coup, pour essayer de rééquilibrer, en fait, chaque faction, étant donné qu'elles sont chacune spécialisées dans la production de ressources, mais il faut pas non plus qu'on soit bloqué dans une impasse parce qu'on a trop de bonhommes, par exemple.
Ou parce qu'on n'a pas les bonnes ressources pour construire les bons trucs, ben, justement, on va pouvoir transformer des bonhommes en ressources, sachant que toutes les factions produisent des personnages, des habitants. Les barbares en produisent juste plus que les autres, parce qu'ils n'ont pas trouvé les moyens de contraception. Les Aztèques, eux, ils produisent ?
Alors oui, ils produisent des pions bénédiction. Alors les Aztèques, ils viennent avec une extension, et ils vont ramener de nouvelles actions, qui sont les actions de prière, qui va permettre de déclencher des bâtiments spéciaux, et soit de gagner des ressources, soit de gagner des points de victoire par rapport à ces prières. Donc l'aspect religion est très très présent dans l'extension aztèque, et ça colle assez bien en fait au mysticisme associé à cette civilisation.
En tout cas, fantasmé quoi. Après, ils produisent aussi de la pierre. Bon,
Ils étaient dans les montagnes, donc c'est vrai qu'ils devaient avoir de la pierre à disposition.
Et, qui va dans le côté sacrificiel, pas de bouclier, alors que toutes les autres factions, non.
C'est ça, alors les boucliers, ça sert à protéger un petit peu plus un de ces bâtiments pour se prémunir d'une éventuelle razzia d'un adversaire. Mais là, effectivement, on est un petit peu à poil avec les Aztèques et on peut facilement se faire raser. Et thématiquement, c'est un petit peu ce qui leur est arrivé bien plus tard.
Et les Japonais, justement, il y a un côté un peu opposé, c'est qu'eux peuvent se faire acquérir et ils peuvent raser leur propre bâtiment.
C'est ça. Et même les bâtiments de faction. Alors que pour les autres civilisations, on ne peut raser que les bâtiments communs.
C'est ça. Alors que ouais, les Japonais peuvent eux-mêmes leur propre civilisation l'éteindre pour essayer d'en tirer profit. Sachant que le harakiri est pas vraiment ça en fait chez les Japonais, puisque c'est le déshonneur. Là, c'est pas vraiment ça, puisque t'essaies quand même de gagner. Donc,
si tu considères qu'à partir du moment qu'un bâtiment est inutile, il est déshonorant pour la civilisation, donc tu le recycles.
Et les Romains, eux, produisent pas mal d'épées.
Voilà, donc pour aller raser les autres, hein, essentiellement. Et bon, ça colle un petit peu à l'esprit expansionnisme de l'Empire romain de l'époque.
Et les Atlantes, qui viennent eux aussi dans une extension, eux, ils ont une spécificité, c'est qu'ils produisent beaucoup de boucliers, hein, parce qu'ils ont subi tellement d'attaques, même de la part des forces supérieures, puisque bon, c'est la seule civilisation qui vraiment est complètement fictive, complètement romancée, quoi.
C'est ça, et du coup, ils se permettent un peu plus de souplesse par rapport à la thématique, entre guillemets, pseudo-réaliste. Autant là, avec les autres civilisations, on va avoir des exemples concrets, avec des aspects liés à cette civilisation. Autant là, y a surtout l'aspect technologique qui arrive avec les Atlantes. D'ailleurs, on pourrait se demander, s'ils ont la technologie, pourquoi ils ont disparu?
C'est ça, parce qu'ils sont arrivés à une phase post-technologique où ils se sont dit, ne sert à rien, nous n'existons plus, disparaissons. Mais ouais, c'est une certaine vision des Atlantes qui revient dans plusieurs fictions, le côté civilisation avancée, etc., qui a peut-être poussé la technologie justement trop loin et qui en a finalement subi les méfaits divins d'avoir voulu dépasser Dieu. Et c'est du coup une faction qui est plus fantasmée. Eux produisent effectivement de la technologie qui décline en technologie de base et technologie avancée. Donc là, on voit vraiment au niveau de la production des spécificités qui vont apporter plus de thèmes que la pioche, par exemple, effectivement, effectivement, on est plus dans la recherche et développement, même si le terme n'est pas le meilleur, dans des projets. Et après, une fois qu'on a fait la phase de production, on va passer à la phase d'action. Alors, pour vous la faire courte, chacun son tour, on va faire une action, voilà, jusqu'à ce que tout le monde ait passé, sachant que quand on a passé, on peut plus revenir. Ouais,
ce qui est intéressant, c'est que les phases d'action sont assez courtes, puisqu'on va chacun faire une seule action, et à son tour de rôle, en refaire une, etc. Alors, des fois, on est un peu frustré, parce qu'on aimerait en faire plusieurs de suite, mais faut attendre que le tour revienne à soi. Mais ça permet au moins des tours de jeu qui sont assez dynamiques. Sauf dans le cas où on a mal optimisé ses ressources. Bon là, on dévie un peu sur la partie purement mécanique. Mais si on se retrouve à ne plus avoir rien à faire, ben les autres joueurs vont pouvoir enchaîner les actions les unes après les autres, et là on peut un petit peu s'ennuyer le temps qu'il termine son tour.
Ouais, c'est un peu de l'ennui, mais par contre au niveau interaction il y en a un petit peu, mais en fait dans l'absolu tout le monde pourrait jouer à peu près en même temps en dehors des phases d'interaction.
Il y a, il y a l'histoire des razzias où tu peux te faire raser tes bâtiments, donc faut, t'es quand même obligé de respecter un ordre de tour.
Et donc dans les actions possibles il y a notamment la construction. La construction donc c'est construire un bâtiment ou en tout cas quelque chose qui va coûter des ressources.
Ah, donc tu vas dépenser les ressources associées, et ce sont soit des bâtiments de production qui vont te permettre de produire de nouvelles ressources au tour suivant, soit des bâtiments spéciaux qui vont avoir un effet boost sur les autres, soit des bâtiments à activer avec des actions, donc généralement c'est avec des bonhommes qui vont permettre d'avoir un effet que l'on va pouvoir utiliser soit une ou deux fois à chaque tour.
Et donc là au niveau de la construction, au niveau du nom du bâtiment et du coup pour le construire, c'est assez logique, hein, y a pas de grande surprise, hein, pour construire, c'est pas une
carrière, voilà, qui va te ramener de la pierre.
Il faut que de la pierre encore pour le construire, éventuellement un peu de bois pour les étais. Et un truc important aussi, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a des cartes de faction et des cartes communes, donc à chaque fois qu'on est invité à piocher pendant la partie, on peut choisir où on pioche, et ces cartes, elles vont aller, alors déjà de base, production vont aller en haut.
Oui, il y a trois étages de cartes.
Qui sont symbolisés aussi par les routes, on reviendra dessus vers la fin de la chronique. Et il y a en plus cette séparation cartes communes et cartes de faction, qui là aussi est purement mécanique, parce que les cartes communes, tu peux pas aller on peut pas te les détruire, sauf...
Sauf les Japonais, ouais.
Voilà. Alors que les cartes communes, oui. Et c'est une question mécanique pour compter les points de victoire, pour voir plein de trucs, c'est très pratique. Par contre, thématiquement, c'est vrai que séparer ces bâtiments, il n'y a pas tellement de...
C'est vrai que c'est assez discutable, thématiquement. C'est plus un aspect organisationnel de ton tableau de cartes.
Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai qu'on peut... On peut tout à fait... Enfin, une ville ne serait pas construite comme ça, puisqu'elle mélangerait les bâtiments bien spécifiques aux bâtiments beaucoup plus classiques. Un autre truc, justement, par rapport aux bâtiments qu'on peut détruire, donc les bâtiments communs dans la plupart des cas, ça peut être un coût. Alors, ça peut être raser son bâtiment dans sa main, on reparlera après de ça, mais ça peut aussi être un coût.
Ouais, on va être obligé de sacrifier généralement un bâtiment commun pour poser un bâtiment de faction. En tout cas pour certains.
Sachant que le bâtiment de faction n'est pas une amélioration du bâtiment commun, là, ça pourrait se tenir. C'est, en fait, il est rasé parce que quelque chose de mieux le remplace. Mais c'est parfois pour des utilités totalement différentes. J'ai rasé. Alors, c'est peut-être un manque de place dans la ville.
Ou un manque de ressources, ou du recyclage. On va récupérer les poutres d'un bâtiment qui ne nous sert plus à rien pour en construire un autre. Pourquoi pas?
Pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est relativement mécanique aussi pour le coup. C'est,
après, ce qui est intéressant mécaniquement et thématiquement, c'est lorsqu'on se fait raser un bâtiment, il reste une ruine. Et cette ruine, on va pouvoir déjà, elle va nous rapporter un bois, donc on récupère des cendres fumantes, un petit peu de matériaux qu'on va pouvoir réutiliser, et on va pouvoir construire sur cette ruine un bâtiment de faction. Donc on va pouvoir sacrifier cette ruine afin de l'utiliser pour construire un bâtiment de faction.
Sachant que géographiquement, en fait, c'est pas sur cette ruine, vu que c'est de l'autre côté du plateau joueur.
C'est ça.
Après, il y a comme action faire à faire. Donc, c'est le commerce. En fait, c'est, on dépense une nourriture pour se permettre de produire à chaque tour d'autres ressources.
Voilà, donc on augmente notre production, sachant que ça nous fait cramer une carte de faction qu'on ne pourra pas construire.
Ah, ça, c'est mécanique aussi, mais c'est vrai qu'on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'on dépense une nourriture pour produire n'importe laquelle des ressources. En fait, c'est toujours une nourriture.
On envoie nos marchands avec de la bouffe pour aller trouver des bonnes affaires à l'étranger.
C'est ce qu'on disait, c'est un peu les cités-états de civilisation à partir du 5, qui sont en fait des territoires neutres, qui sont pas les quatre factions, mais avec lesquels on va échanger, sachant que donc tous, eux, ce qu'ils recherchent, c'est de la nourriture apparemment, quoi. C'est aussi un peu particulier. Et pareil, au niveau de ce que ça produit, c'est toujours par rapport à la carte, il n'y a pas de relation par rapport au fait que ce soit de la nourriture qu'on donne, donc bon, là aussi. Et on va arriver sur les razzias, justement, qui ont un intérêt clair, c'est l'interaction.
Alors, il y a deux types de razzias. Il y a les razzias sur les bâtiments des autres. Donc, en gros, on va récupérer des ressources par rapport à ce qui est indiqué sur la carte. Et en contrepartie, l'adversaire récupère un bois et une carte ruine. Donc, en fait, il pose la carte à l'envers. Par contre, on peut aussi raser les cartes communes que l'on a en main. Alors là, c'est un peu plus discutable thématiquement, là. On s'est posé la question.
C'est difficile, ouais. C'est voilà, autant entre joueurs ça simule les conflits des petits bouts d'empire, hein, puisqu'encore une fois c'est une razzia, c'est pas une destruction d'empire, c'est un petit pillage d'un bâtiment, hein, ça reste assez léger.
C'est une petite annexe là qu'on va bousiller.
Et finalement au niveau mécanique, pareil, ça se traduit, il faut avoir des jetons d'attaque, donc des jetons épées. Ça coûte plus cher d'aller chez le voisin pour faire une razzia que chez nous, et s'il y a un bouclier qui défend un bâtiment, ben il faut augmenter sa force de frappe. Et chez nous, donc comme c'est chez nous, ça coûte un peu moins cher, mais effectivement le côté
bon, au final on utilise assez peu les radias, hein, sauf quand on a la civilisation romaine, parce que c'est quasiment les seuls à produire suffisamment d'épées.
Les radias chez soi-même, je trouve quand même que des fois ça peut vraiment être utile pour te donner la ressource qui va te permettre de construire le bâtiment qui vraiment va te permettre de débloquer un truc.
Ouais, mais au final tu vas le faire qu'une fois pour dépenser l'épée que t'as produite. Mais après, c'est assez rare de mener une stratégie essentiellement basée sur la radia. C'est pas rentable sur le long terme.
Après, ouais, comme dit, voilà, se pose la question thématique de se détruire sa propre truc. Alors là, pour le coup, ça aurait pu être une spécificité japonaise.
Ouais. Bon, d'un côté, la radia, ça simule un conflit, mais c'est un conflit qui est entre guillemets très gentil. Hein, je veux dire, on n'est pas du tout dans une guerre ouverte avec l'adversaire. On est plus c'est de la petite escarmouche, on va dire.
On chante du tyrolien à son voisin.
C'est ça.
Donc voilà pour la radia. Après, il y a le côté activation qui, donc sur certaines cartes spécifiquement, où là, c'est j'envoie de la population travailler et en échange, je gagne de la ressource.
Voilà, ou des points de victoire. Donc ils participent à l'essor de l'empire de manière abstraite à l'aide des points de victoire. Ouais.
Et justement, là, on va peut-être rentrer dans un truc qui thématiquement se tient bien, c'est le côté justement le nom des bâtiments qui est le principal ressort thématique en fait par rapport aux effets des cartes.
C'est ça, par rapport à l'illustration du bâtiment, le nom du bâtiment et son effet intrinsèque.
Et son coût. Donc c'est vrai que tout est lié au nom du. En fait, les noms des bâtiments ont dû être mis après en se disant ok, ça va produire du bois, bon, on va l'appeler forêt par exemple.
Forêt primaire, c'est le nom exact. Ou la scierie par exemple, hein, qui produit aussi du bois. Et qui nécessite du bois pour être construite. Mais autant certains bâtiments sont très thématiques et leur effet colle bien. Alors là, j'ai sous les yeux un bâtiment aztèque. C'est l'hôtel sacrifié. Alors en plus, ça reprend un imaginaire un peu fantasmé de sa civilisation qui était essentiellement basé sur le mysticisme et les sacrifices. Il y a énormément de bâtiments basés notamment là-dessus. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus discutables. Alors là, déjà.
Là, j'en ai un, là, justement, chez les Romains. C'est la caserne, ça permet de produire deux bonhommes. ça produit pas de la force de frappe, donc. Par contre, si tu fais affaire, ça te produit effectivement des épées. Là, ça se tient. Mais par contre, produire des bonhommes, ça te produit des soldats, mais les petits bonhommes, donc, qui sont symbolisés par des petits personnages roses.
Tu peux très bien les envoyer casser des pierres. Hein. Ça sera pas forcément des soldats.
Hein. Ouais. Et, bon, ouais, je suis pas sûr que c'était ouvert aux femmes et que la reproduction était favorisée dans les casernes. Donc ouais, là pour le coup thématiquement c'est assez délicat.
J'en ai un autre là qui est assez discutable chez les Japonais, on a le casino. Je savais pas que les casinos existaient déjà et encore moins. Alors autant on sait que la population asiatique peut apprécier les jeux d'argent, mais je crois que c'est plutôt en Chine plutôt qu'au Japon.
Toujours chez les Romains là, il y a le colosse où faut dépenser un petit bonhomme et trois pierres pour gagner des points de victoire, c'est une action. Bon, alors là, pourquoi pas les trois pierres. Par contre, le petit bonhomme, en fait, sur l'illustration, c'est amusant, c'est celui qui va balayer autour du colosse. C'est le prestige, en fait, qui permet de mettre, quoi.
Alors d'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé des illustrations des cartes, mais on a un style un peu BD avec pas mal de clins d'œil. En fait, les illustrations sont assez petites, hein. Les bonhommes sont représentés à l'échelle bon un peu grossière par rapport au bâtiment. C'est un peu comme dans Age of Empires, hein, où... il faut 10 bonhommes pour atteindre la taille d'une pyramide. Et on retrouve des petits clins d'œil dans plusieurs cartes. Donc un petit peu comme les illustrations d'Astérix ou de Où est Charlie, où on a des...
Ouais, et puis elles sont pas dénuées d'humour, je trouve. Il y a certains petits trucs, justement, le mec qui nettoie autour du colosse, ce genre de choses. Bon, il y a des trucs qui ont été réutilisés. Hein. Là, le mec qui nettoie le colosse, là aussi, sur les cartes architectes chez les Romains. Mais je trouve que, ouais, ça colle pas mal. Il y a des cartes chez les Atlantes où c'est des barbus. C'est Birdies Manufacture. Alors, je l'ai juste en anglais, l'extension, donc je sais pas comment ils l'ont traduit. Mais et où là, en fait, on produit de la barbe et en fait ça permet de dépenser un jeton de technologie basique pour en gagner un avancé, voilà. En fait, en produisant de la barbe, on gagne de la sagesse a priori. Et anti-thématique, Incredibly Big Winch, donc le grand pont incroyable, ça, on doit dépenser un jeton technologique de base pour piocher une carte commune, voilà. Pourquoi ?
Voilà, bon là, on est plutôt dans un apport mécanique.
Voilà, oui. Mais bon, en général, effectivement, les principales relations thématiques vont être vraiment entre le nom du bâtiment, son illustration, son effet. En général, ça va pas être non plus complètement absurde, comme on l'a montré parfois. En général, il va y avoir quelques liens là chez les Atlantes, il y a les smugglers, je sais pas comment on le traduire, les pillards.
Contrebandiers, ouais.
Contrebandiers, là, eux, il faut dépenser un jeton technologique pour gagner une action qui permet en fait de choisir un ennemi, et à chaque fois qu'il dépense deux personnages pour avoir une ressource ou une carte, on gagne la même chose. Donc il y a un côté taxe.
Voilà, ils auraient pu l'appeler le fisc.
C'est ça, les impôts, la taxe d'habitation qui est arrivée chez vous aussi. Donc voilà pour les bâtiments. Et enfin, il y a la fameuse action de conversion d'ouvriers en ressources.
À la rigueur, qu'on transforme les ouvriers en pommes pour les bouffer, ouais, mais en pierre.
Ils vont les chercher. Par contre, moi, celle que j'arrive pas à m'expliquer, c'est pour piocher une carte.
Voilà, regarde, les ouvriers, ils se tuent à la tâche pour la découverte de nouveaux horizons.
Et enfin, on finit par la phase d'entretien où là, on perd tout. On perd tout sauf les trucs qui peuvent être conservés par la faction. Et sauf si on a un entrepôt, les Romains qui ont un entrepôt qui permet de conserver d'autres trucs qui est bien utile.
Voilà, donc en fait, chaque civilisation va conserver les ressources dont elle est spécialisée dans la production.
Et là, je comprends pas trop. Parce qu'autant la bouffe, je comprends. Autant les humains peuvent mourir. Ça dépend en fait de l'échelle à laquelle on se place, autant la pierre.
Bah, elle s'érode, on va dire. Et les épées, elles rouillent. Voilà.
Alors, c'est rare, mais on n'a pas la civilisation grecque. Mais ouais, autant le bois, bon, à moyen terme, je peux le comprendre. Il y a des trucs vraiment qui me paraissent un peu absurdes. Je comprends mécaniquement l'intérêt, hein, bien sûr. C'est le côté rentabilité, utiliser tout ce qu'on a, flux tendu, qu'on disait plus tôt. Mais c'est vrai que, bon, c'est un peu idiot dans l'absolu, je trouve. Et donc, à la fin de la partie, les points de victoire, bah, c'est la puissance de l'Empire, tout simplement. Voilà.
Voilà, du nouvel Empire qu'on a réussi à faire, hein, à partir de l'existant.
Et donc, pour terminer, on va parler du sentiment thématique qu'on peut ressentir en jouant à ce jeu et de l'effet visuel qu'on aime bien tous les deux. On a parlé sur Terraforming Mars.
On peut peut-être juste revenir sur la partie des civilisations, parce que c'est vrai qu'on a un peu un anachronisme, hein, entre les barbares. Quand on regarde toutes les illustrations, on a l'impression de se retrouver à la préhistoire. On a les mecs qui vivent dans des tentes, tout est très rustique, tout a l'air assez peu développé au final.
Les barbares dans Civilization 6 sont c'est à peu près ça. Ils sont toujours dans des camps en bois. Bon, même si les barbares évoluent dans Civilization 6, c'est pas aussi vrai que ce que je dis, mais c'est vrai qu'ils sont un peu restés à l'âge de pierre, à l'âge du bronze, alors que cela dit, on n'a pas une évolution
en fait
dans notre
civilisation. Là, tu vois, ils ont encore des crânes d'os sur la tête, ils ont des colliers en.
C'est une vision archétypale, ouais.
Le trait est forcé. Alors que typiquement là il y a une carte, c'est la bande où tu vois des barbares qui ont kidnappé une personne, et quand tu vois la différence en termes vestimentaires, il y a 2500 ans d'écart entre les deux.
C'est un peu la différence entre nous et le tiers monde. Et du coup, ouais, au niveau de l'effet visuel, justement, il y a ce côté là qu'on retrouve parfois en regardant de haut son jeu. On voit les bâtiments les uns côte à côte, et en fait il y a le côté les routes comme dans Keyflower par exemple qui fait qu'il y a une espèce de continuité, et il y a un gros problème à ce niveau-là, c'est les bords des cartes blancs qui font que les routes se rejoignent pas, et du coup c'est vachement ça introduit une grosse rupture entre les cartes, je trouve. C'est un peu dommage. Je sais que c'est toujours délicat de faire des cartes pleines cartes parce que ça s'abîme un peu, donc on n'a pas envie que ça s'abîme sur les côtés,
ouais,
etc.
Autant dans Keyflower, mais... on a vraiment construit son village et on peut le regarder comme étant un ensemble. Là, au final, on va regarder un tableau de cartes, hein, un petit peu comme si on regardait notre tableau à Race for the Galaxy, quoi. On a, même s'il y a, comme tu disais, les routes qui permettent d'avoir une petite continuité, on a le bord blanc là qui vient un petit peu casser l'homogénéité.
Les routes, je pense,
sont
surtout là
tout.
Pour aider à savoir où les placer, en fait. C'est vraiment une question d'ergonomie plus que de volonté thématique. C'est dommage parce que c'est vrai que les voir coller les uns aux autres, ça pourrait donner un truc sympa, même si ça poserait le même problème que dans Kanagawa où ça bouge toujours les cartes, donc c'est difficile de les garder les unes à côté des autres.
Et donc au final, à la fin, est-ce qu'on a l'impression d'avoir construit un empire ?
Pas vraiment.
Ou un petit village ?
Un petit village plutôt, ouais.
Voilà, un petit hameau, c'est ça.
Et alors là, justement, il y a une rupture entre les différentes factions, c'est que pour les barbares, ça fonctionne pas trop mal parce que finalement, les barbares, ils sont dans leur petite tribu, etc. Ça se tient à peu près le nombre de bâtiments. Et ça se tient aussi avec le côté...
Avec les Aztèques aussi, où les cités n'étaient pas forcément très développées en termes de surface, surtout celles qui étaient en haute altitude. Mais alors pour l'Empire romain, là, on n'y est pas du tout.
Ah ouais. Et pour les barbares, ce qui aide aussi, c'est que... alors là, c'est tout au long du jeu que se construit cette idée-là, mais c'est qu'ils sont centrés sur le peuple, l'humain. Et en fait, au fur et à mesure, on a de plus en plus de personnages qui vont pouvoir faire des actions, etc. Et on a l'impression de voir une population grandir vraiment.
Et se développer, ouais.
Alors que dans les autres, c'est moins le cas. Alors c'est peut-être le côté humain qui rentre là-dedans, en fait, tout simplement. Mais
Moi, avec les Aztèques, c'est plutôt le côté pierre qui se développe. Les Égyptiens, c'était à peu près pareil.
Ouais, les Égyptiens, ouais. Et puis j'ai pas eu le sentiment d'aider à bâtir des pyramides. J'ai construit trois sphinx. Mais c'est vrai que ça fait plus petit village. Il n'y a pas le sentiment de Imperial Settlers, de Imperial, comme il y a dans le titre, ou de Empire. Même si le côté naissance qui est dans la boîte française est peut-être nuance peut-être un peu ce côté impérial, mais c'est vrai que même si à naissance on s'attend quand même à un empire. Alors
ah, c'est plutôt le côté colon, je pense qu'il faut mettre en avant là. C'est le côté un peu découverte et fondation d'un nouvel empire, mais qui n'est pas forcément la continuité de l'existant.
En tout cas, c'est vrai que moi j'ai pas eu l'impression. C'est un jeu que j'aime bien dans l'ensemble, hein, vu son format, etc. Que je trouve qu'en fait on est plus l'impression colle plus à l'illustration que au titre et que la volonté de côté impérial.
Ouais. Quand même assez calculatoire au final. Hein, je veux dire, les premiers tours vont assez vite, mais au bout d'un moment, quand on commence à avoir plein de ressources, là on commence à réfléchir et vraiment essayer d'optimiser au maximum nos actions, et on est plus dans une recherche d'optimisation thématique. Calculatoire, pardon, plutôt que dans une recherche thématique de construction d'un empire qui va être équilibré et harmonisé.
Il n'y a pas l'envie de faire un beau plateau, entre guillemets, où ça serait harmonieux au niveau de la ville, etc., comme dans par exemple Medina, qui a un côté plus visuel, on a l'impression d'une ville qui pourrait ressembler à quelque chose. Là, on s'en fout, quoi.
Même si tu construis plusieurs fois le même bâtiment, tu t'en fous parce que tu sais que c'est efficace et que ça rapporte des points de victoire. Donc, tu vas rentrer dans cette stratégie-là.
Et c'est vrai que on n'a pas parlé du matériel pour le coup, mais c'est vrai que.
Avec des cartes.
Les ressources, quand même.
Ouais, c'est vrai.
C'est pas juste des cubes.
Voilà, des ressources travaillées. Donc, on a des belles pommes en bois rouge. On a des rondins de bois sous forme de branches. On a les pierres aussi qui sont travaillées.
Et c'est vrai que je pense que ça joue sur. Quand on joue, on dit je prends des pierres. On dit pas je prends du gris parce que c'est pas des cubes. Je pense que le matériel a une importance dans la manière dont on parle du vocabulaire utilisé dans la partie, en fait. Et que si on avait mis des cubes roses, donc Aelus par exemple, je prends du rose, on dit pas je prends du jambon. Là, le rose, c'est aussi du jambon d'une certaine manière.
C'est les gens, hein, les roses, pour le coup.
Mais on parle en termes thématiques plutôt que juste en termes de couleurs, quoi. Même si je transforme de.
Pourtant, on utilise les termes couleurs pour les cartes. Et du coup, là, c'est mécanique, puisque en fonction d'un certain nombre de cartes de la même couleur, on va obtenir tel ou tel bonus.
Et ça nous empêche pas de dire je transforme deux bonhommes en une pierre.
Oui.
Je vais te laisser faire la fiche technique.
Du coup, Settlers, naissance d'un empire, est paru en français chez Edge. À la base, c'est un jeu Portal. C'est un jeu de Ignacy Trevicek. On l'a pas dit, mais c'est une rethématisation du jeu 51e état. Hein.
Qui a été refait après aussi.
Qui a été refait avec le 51e état Master Set, hein, qui reprend des... Et qui va d'ailleurs sortir en français bientôt chez Edge également, ou qui l'est déjà. Enfin, c'est
d'ailleurs,
tout
c'est Edge, mais il y a eu pas mal de discussions. Au moment où il est sorti... En anglais, moi j'avais pris en anglais parce qu'il m'attirait pas mal sa sortie à Essen.
Et on savait pas s'il allait être en français au final, parce que normalement c'était Yellow hein, qui faisait les jeux.
Il y avait Yellow, il y avait Philo sur le coup, et finalement ça a été Edge. Parce que là c'est pas du tout, c'est pas similaire à tous les jeux qu'ils font, disons. Je vais te faire les illustrations parce que c'est moi qui ai le livret de règles, il y en a quelques-uns.
Surtout, j'arriverai peut-être pas à prononcer les noms.
Alors, ma maîtrise du polonais va t'étonner. Thomas Jedruchek, Jaroslav Machinek, Mateusz Bielski et Rafał Cima. Ou quelque chose comme ça, en tout cas.
Et donc, on le trouve chez Philibert au prix de 40€ pour la boîte de base. On trouve également les extensions. Alors, il y a différents formats d'extensions. Il y a les extensions de type peuple, avec la boîte des Atlantes et la boîte des Aztèques, sortie plus récemment.
On peut souligner qu'à chaque fois, c'est pas trop mal fait. C'est-à-dire que ça prend en compte les extensions précédentes. Bon, marketing, d'un point de vue marketing, ça se tient aussi. Hein. Mais c'est assez bien expliqué. On peut intégrer comme on veut les trucs, etc. C'est assez...
parce que en fait, avant que les extensions avec les peuples ne sortent, il y a eu des petits paquets de cartes qui s'appellent les paquets Empire qui sont sortis. Il y avait Pourquoi tant de haine et 3 est un nombre magique qui apporte des nouvelles mécaniques de jeu.
Et pas de cartes partout, alors que ça aurait pu.
C'est ça, surtout dans 3. C'est ça. Et dans les boîtes d'extension avec les peuples, pour ces nouveaux peuples, il y a l'intégration de ces cartes qui sont compatibles avec les extensions précédentes. Et du coup, on peut démarrer la partie avec une petite phase de draft. Mais alors là, bien sûr, ça oblige à bien connaître le jeu puisque tu vas monter ton paquet de cartes faction en fonction de la stratégie que tu vas adopter.
Et ça permet aussi de jouer à 5, peut-être même à 6 avec les deux extensions, mais c'est déconseillé dans les livrets de règles
ça allonge quand même le temps de jeu. Et on peut aussi jouer seul. Même si c'est un faux argument, je pense, j'ai jamais joué seul à Settlers.
Moi, j'ai peut-être fait une partie tout seul. J'ai plus le souvenir de ce que vaut l'IA. Mais donc voilà pour Settlers, naissance d'un empire. C'est vrai que un jeu plutôt sympa dans l'absolu.
Donc on recommande pour l'aspect mécanique, hein, il est intéressant. Après pour l'aspect thématique, ça se tient pas.
Ça dépend. Il y a le côté faction qui est intéressant. Il y a le côté production, mais dans l'absolu, c'est quand même un jeu principalement mécanique. Je pense que les noms de cartes ont été mis après les effets, que les noms de ressources ont été faits après les tableaux Excel qui permettent les transferts, etc. Je pense qu'on est clairement plus dans ce...
Voilà, si vous voulez un jeu de reconstitution historique, c'est pas celui-là qu'il vous faut.
Non, je pense pas non plus. Donc on va vous laisser là, on se retrouve le mois prochain pour un tellement je t'aime, on va vous laisser avec la belle Lara. Donc nous on se retrouve le mois prochain.
Et en attendant,
t'aimez bien.
Merci Flavien et Maxime pour cette chronique. Donc, je rappelle les quatre puissances, les Romains, les Barbares, les Égyptiens et les Japonais. Donc toi, tu n'as pas eu l'occasion d'y jouer
Non, pas du tout.
Moi, j'avais fait qu'une partie de celui-là. J'avais un peu plus joué à 51e état, le jeu initial. Mm. Et en fait, ce que j'aimais bien, ouais, c'est que tu peux utiliser la même carte que quand tu joues une carte, tu as trois manières de l'utiliser, quoi. Ça, c'est, je trouvais ça assez intéressant.
D'accord. Bon, bah, je vais le noter dans ma to-do list.
Voilà. Et on enchaîne tout de suite avec les plateaux numériques. Et ce mois-ci, c'est Fendoel qui fait un peu de jardinage. Et il fait un peu de jardinage et il nous présente Cottage Garden, donc c'est la suite de Patchwork. Est-ce que tu as joué à ces jeux?
Non, je connais Patchwork pour le coup, mais j'ai pas encore pu tester Cottage Garden. C'est des thématiques de jeu un peu différentes de ce qu'on voit habituellement. J'aurais envie de dire que c'est un peu des thèmes de jeu pour maison de retraite, mais mais non, en fait, Patchwork c'était vachement bien, donc je pense.
Patchwork, ouais. La couture, c'est pas que de la maison de retraite.
Non, hein, non, parce qu'en plus, je couds très bien, figurez-vous. Ah, donc voilà. Et je jardine moins bien, bizarrement. Mais non, et le Patchwork est très bien, très original, et c'est vrai que Cottage Garden, c'est un jeu qui m'intéresserait vraiment, enfin, je serais vraiment intéressé d'y jouer.
Bah, c'était un peu plus, j'en avais entendu des retours de semaines dernières, comme quoi c'était un peu plus complexe et que ça rajoutait pas beaucoup, quoi. À part le fait de pouvoir jouer à 4 joueurs, quoi. Parce que c'est vrai que Patchwork à 2, on est un peu.
Mais c'est pas mal, enfin, comme jeu à 2, il y a pas tellement de jeux qui sont toujours.
Mais comme jeu à 2, ouais, Et il est très bien.
Et moi, j'y avais joué avec mon fils qui était pas du tout, enfin, qui a 8 ans, donc qui était pas du tout.
Ah, s'il y avait pas de guerriers.
Il y avait pas de gobelins à tuer, il y avait pas de monstres. Et au final, il a beaucoup aimé le jeu, donc.
Donc tu vois, pas de théorie du genre, il peut faire de la couture.
Tout à fait. mais exactement, pas de théorie du genre. Il faut apprendre aux garçons à coudre.
Bah, on va écouter Fendoel dans son jardin, dans son cottage, jouer à Cottage Garden.
Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, je suis Fendoel. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro des plateaux numériques. Cottage Garden est le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit d'un jeu de Uwe Rosenberg, édité par BlackRock Game en 2016. Uwe Rosenberg est connu pour plein de jeux super, franchement renseignez-vous si vous le connaissez pas. Allez, on va dire Agricola et Patchwork. Et justement, en parlant de Patchwork, Cottage Garden reprend le même principe de Patchwork, c'est-à-dire un placement de tuiles genre Tetris sur un plateau personnel, mais avec l'avantage d'être jouable à 4. Donc voici les grandes lignes des règles du jeu. À chaque tour, un joueur va choisir parmi des tuiles présentes sur un plateau commun et la placer sur un de ses plateaux individuels. En fait, il aura deux plateaux individuels devant lui avec des pots et des couverts végétaux. Alors j'ai appris ce que c'était, j'y connais rien du tout en jardinage, et en fait c'est des espèces de cloches en verre qui recouvrent des plantes. Et donc, sur votre plateau individuel, vous avez des pots et des couverts végétaux qu'il ne faut pas recouvrir. Donc, ça vous ajoute une contrainte pour le placement de vos espèces de petites tuiles genre Tetris. Quand le plateau n'a plus d'espace vide, on compte les pots et les couverts végétaux et on fera avancer des jetons de score à chaque tour. On pourra donc marquer un certain nombre de points. Le jeu se passe entre 4 et 6 tours en fonction du nombre de joueurs et à la fin de la partie, celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. Alors, il y a un système également de sélection des tuiles sur le plateau central qui est assez malin, avec un positionnement d'un dé qui indique également le numéro du tour. Alors, il y a quelques petites subtilités également à base de ruches et de chats, mais sachez que le thème reste bien plaqué comme pour Patchwork. Concernant le portage, donc il a été effectué sur Android et iOS par Digidiced, qui sont également responsables d'autres adaptations des jeux de Uwe Rosenberg, notamment Le Havre, Agricola, Terre d'élevage, Patchwork, etc. Nous en avons parlé dans d'autres numéros des plateaux numériques. Cottage Garden vient de sortir, nous sommes en 2017, et il est au prix de 5 euros. Pour info, c'est le même prix qu'Agricola et Le Havre, mais c'est plus cher que Patchwork, qui est lui à 3 euros. Le jeu est en français, avec un tutoriel divisé en chapitres. De plus, les règles sont expliquées dans une vidéo en anglais qui vient à la fin des différents chapitres. Pourquoi avoir ajouté ces vidéos ? Eh bien parce que le tutoriel n'est pas super digeste. Il y a beaucoup à lire, on fait une ou deux petites manipulations, mais c'est pas vraiment comme les autres jeux Digidice où on a un vrai début de partie, on est lancé. Là, ils vont nous expliquer différents moments de la partie, un début, le milieu et puis la fin. Et donc, au final, on n'est pas vraiment dans une partie, ça n'aide pas à se projeter. Bref, si vous ne connaissez pas le jeu, allez voir les vidéos explicatives, c'est quand même plus facile. Et allez les chercher à la rigueur même en français. Pour le jeu, il est possible de jouer en local contre un humain ou contre des ordinateurs avec 3 niveaux de difficulté. L'IA facile sera facile à battre, l'IA difficile est un peu moins facile mais pas imbattable du tout. Il est également possible de jouer en ligne, alors sous forme de partie classée ou amicale, c'est-à-dire juste non classée. Et le système de Digidice est assez sympa. Depuis n'importe quel écran, en fait, vous avez des icônes tout en haut qui permettent de vous placer dans la file d'attente pour jouer une partie rapide, donc amicale, ou une partie classée. Le truc que je trouve dommage, c'est que ce n'est expliqué nulle part. Le jeu est en 6 langues, dont le français. Il est possible de l'afficher en HD ou pas en HD pour les petites configurations. Les bruitages et les musiques sont pas mal. Mais comme d'habitude, sur le long terme, on aura tendance à tout couper parce que c'est redondant. La vitesse du jeu est également ajustable, ce qui permet d'aller très vite si vous n'avez pas envie de passer trop de temps à faire une partie. Concernant l'interface, donc Cottage Garden reprend l'interface des jeux de Digidice. Si vous avez l'habitude, ça passe, mais dans le cas contraire, il faut comprendre que les différentes options sont disposées en 2 colonnes de part et d'autre de l'écran. Au centre de l'écran, on vous proposera de lancer une nouvelle partie, une partie classée, amicale ou en local. Mais en fait, à gauche, vous aurez la possibilité de voir votre profil dans le réseau Digidice, de voir les notifications si vous avez des parties qui viennent d'être lancées, d'acheter également les autres jeux de Digidice, de lancer une partie donc classée amicale locale, et sur la partie droite, il sera possible de lancer une partie classée amicale ou locale, de voir vos parties en cours, en ligne ou non, de voir les différents chapitres du tutoriel et les vidéos explicatives en anglais, de voir les options, le son, la musique, etc., et de voir les crédits du jeu. Quant à l'écran de jeu, eh bien, il est assez pratique, il permet de voir à tout moment les plateaux individuels des autres joueurs et où on en est de la partie. À chaque tour, le joueur pourra choisir la pièce qu'il souhaite placer sur son plateau, et pourra la positionner facilement grâce à des boutons qui sont plutôt gros et assez clairs. Donc il sera possible de retourner sa tuile ou de la faire pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. À tout moment, il sera possible de revenir en arrière sur les choix qui ont été faits, ce qui est bien pratique. Et ça, c'est très bien fait. Voici donc mon avis. Cottage Garden en version numérique est conforme à ce que vous pouvez retrouver en version de plateau. Il a le même défaut, une durée vraiment trop longue si on joue à 4 joueurs humains. Le tutoriel est par contre assez complexe. Si vous ne connaissez pas le jeu, je vous recommande fortement de voir une vidéo explicative avant. Allez voir sur Ludovox ou sur TrickTrack. Je recommande cette adaptation numérique si vous adorez le jeu et comptez y jouer en déplacement sur votre tablette à 2 ou à 3, on va dire maximum. À noter qu'il est parfaitement jouable sur un téléphone avec un grand écran. Je le recommande aussi si vous êtes branché compétition et avez du temps pour les parties classées. Personnellement, je lui préférais Patchwork qui, même s'il n'est jouable qu'à 2 joueurs, est aussi moins cher. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Jouez bien et au mois prochain!
Merci Fendoel pour cette présentation de l'application Cottage Garden. Et on va enchaîner avec deux chroniques dans le même thème. Parce qu'on nous a peut-être reproché qu'il n'y avait pas trop de fil conducteur. Alors là, on a deux chroniques qui suivent et qui ont le même thème. C'est quand même On fait quand même des efforts.
Ouais, on prend bien note de toutes les critiques qui nous sont adressées.
Voilà. Alors, on a Seb qui va nous parler de Watson et Holmes. Tu y avais joué, toi ?
Oui. Alors, moi, c'est un jeu qu'on m'a offert. Donc, je l'ai à la maison. J'y ai joué. J'ai fait. En fait, c'est un jeu. Il va l'expliquer bien mieux que moi. C'est un jeu en scénario. Donc, moi, j'en ai fait 4. Ce qui déjà, quand même, permet de dire qu'on va. Voilà, et c'est moi je suis une fan des jeux d'enquête policière, donc.
Ok. T'avais joué aussi à Sherlock Holmes Détective Conseil.
Oui, oui, oui. Là, on est dans un jeu. Enfin, c'est pas du tout. C'est la même thématique, ça fonctionne pas du tout de la même manière.
Ok, bon, on va écouter Seb qui va nous en parler tout de suite.
Bonjour les enquêtrices et les enquêteurs. Pour cette nouvelle chronique, je vous propose un petit retour dans le passé, en pleine époque victorienne, en compagnie du plus célèbre détective de tous les temps, afin d'y résoudre 13 enquêtes toutes plus tarabiscotées les unes que les autres. Watson et Holmes, puisque c'est de lui dont il s'agit, est un jeu pour 2 à 7 détectives, à partir de 12 ans, de Rhésus Torres Castro. Il est illustré par Pascal Kido, Arnaud Demegde et Nériac, et est édité par les Space Cowboys. Il est disponible chez notre partenaire Philibert au prix de 40,50€. Une série d'affaires inédites a été trouvée dans les carnets de notes du Dr. Watson. Chaque joueur endosse le rôle d'un apprenti détective enquêtant dans l'ombre de Sherlock Holmes. Toutes les affaires commencent par une introduction, lue par un des joueurs ou par un acteur professionnel, grâce à un QR code menant vers un fichier audio sur Internet. À la fin du texte, 3 à 4 questions sont posées. Qui est le coupable? Quelle est l'arme du crime? Pour quel mobile? Etc. Le but du jeu est d'être le premier à trouver la réponse à toutes ces questions. Sur la table sont disposées une quinzaine de cartes pistes. Chacune d'elles correspond au lieu à visiter durant l'enquête, aux objets à examiner ou aux principaux protagonistes à interroger. Un tour de jeu est constitué de 2 phases distinctes, la visite et l'enquête. Durant la phase de visite, les joueurs placent à tour de rôle leur pion sur une carte piste. Si la piste est libre, c'est-à-dire sans aucun autre pion, pas de problème. En revanche, si un autre joueur occupe déjà la carte, le nouvel arrivant doit dépenser au minimum un jeton calèche de plus que le joueur déjà présent. Chaque joueur dispose de 10 jetons calèche en début de partie. Il représente de façon abstraite la rapidité avec laquelle on se déplace de piste en piste. Le joueur éjecté récupère son pion et toutes ses calèches sauf une, et devra à son tour se replacer sur une piste. Soit la même, soit une autre, libre ou occupée, en dépensant éventuellement des jetons calèches le cas échéant. Cette phase se termine dès que chaque joueur occupe une carte piste. Commence alors la phase d'enquête. Tous les joueurs prennent la carte sur laquelle ils se trouvent et lisent secrètement le texte écrit au recto de celle-ci. Il est vivement conseillé de se munir d'un stylo et de plusieurs feuilles de papier afin de noter les différents indices glanés au cours de partie. Le jeu continue de la sorte jusqu'à ce qu'un des joueurs pense avoir résolu l'affaire et pouvoir répondre aux questions. Il se place alors sur la carte 221B Baker Street durant la phase de visite. Il note précisément ses réponses sur une feuille, puis consulte secrètement le recto de la carte pour confronter ses réponses. Si le joueur répond correctement à l'ensemble des questions, il remporte la partie. Dans le cas contraire, il est éliminé. La partie se termine dès qu'un joueur parvient à résoudre l'affaire. On lit alors la solution de Sherlock Holmes pour lever le voile sur tous les détails de l'enquête. Affaire bouclée, mon cher Watson. Je ne suis sans doute pas très objectif, puisque j'aime beaucoup les jeux d'enquête, ainsi que l'univers de Sherlock Holmes et l'époque victorienne. Mais j'ai adoré toutes mes parties de Watson et Holmes. Je n'ai encore résolu que la moitié des 13 enquêtes présentes dans la boîte, mais toutes étaient très intéressantes et surtout très bien écrites. À ce niveau-là, rien à redire, c'est parfait. Les affaires sont classées par niveau de difficulté, de 1 à 3 étoiles, et toutes ont des noms accrocheurs évocateurs. Les héros de Kambula, la mort d'un hypochondriaque, les hiéroglyphes dans le sable, ou encore le livre des morts. La complexité augmente au fur et à mesure, avec plus d'indices, plus de recoupements à faire, moins de preuves évidentes, etc. La durée des parties augmente en conséquence. Si la première enquête demande environ 45 minutes pour être résolue, les suivantes peuvent aller jusqu'à 90 ou 120 minutes. La prise de notes est très importante, et chaque indice, chaque petite phrase peut éventuellement faire avancer l'enquête. Tout le sel du jeu se situe dans la phase d'enquête, mais la phase de visite n'est pas à négliger. Il faut se souvenir qu'au final, tout cela est une course. Il convient donc de se placer judicieusement en utilisant ses jetons calèches à bon escient. Il faut également se placer de façon logique en essayant de suivre le cheminement de l'enquête. Rien de plus déstabilisant que d'arriver sur un lieu regorgeant d'informations, mais dont on ne saisit pas l'intérêt par manque d'informations. Bien entendu, plus il y a de joueurs, plus la phase de visite est ludique et interactive. On se marche beaucoup moins sur les pieds à 3 qu'à 7 joueurs. J'ai volontairement omis certains détails qui ajoutent un peu de sel au jeu. Il est possible de bloquer d'une piste, Watson peut nous venir en aide et certains scénarios introduisent des cartes auxiliaires qui autorisent une action spéciale à son détenteur. Attention tout de même, l'essentiel du jeu se fait dans le silence, chacun prenant des notes de son côté. L'interaction se limite à la phase de visite, même si rien n'empêche les joueurs de discuter de l'enquête et éventuellement de bluffer les autres sur son avancement ou sur l'intérêt de tel ou tel indice. Le matériel est agréable, toutes les cartes d'une affaire sont classées dans une enveloppe et le tout est rangé dans une belle boîte fourreau. Rien d'extravagant, mais tout est fonctionnel et bien réalisé. Bref, si vous aimez les jeux d'enquête et que vous cherchez le pendant compétitif de Sherlock Holmes Détective Conseil, Watson et Holmes est fait pour vous. D'ici ma prochaine chronique, enquêtez bien, démasquez le coupable et surtout, jouez bien.
Merci Seb pour cette chronique sur Watson et Holmes. La chronique, alors j'avoue que j'avais oublié le mois dernier dans le dossier, on l'avait zappé le mois dernier, mais bon, comme vous aviez déjà 9 chroniques, ça fait du... Ça en a fait un peu plus ce mois-ci.
Et puis comme ça, ça nous permet de donner ce petit côté thématique.
On a un côté thématique et on peut donc enchaîner avec la chronique « Si le jeu m'était compté » de Je suis jeu sur Sherlock 13. Tu avais aussi testé celui-là, le Sherlock 13 ?
Oui, alors je l'ai acheté cet été, je l'ai emmené en vacances. On a fait énormément de parties. C'est un super petit jeu, des parties très rapides qui s'enchaînent super bien. En fait, pour le coup, moi je suis pas du tout fan de faire plusieurs parties d'un même jeu à la suite. Et là, c'est un des rares. Enfin, la durée, il fait beaucoup, mais c'est le Cluedo, mais moderne. Enfin, voilà. Enfin, moi, de toute façon, je l'ai déjà dit, j'adore tout ce qui est enquête policière. Il y a du Sherlock Holmes, des meurtres, enfin, des coupables à trouver. Je suis toujours fan. Et ça n'a aucun rapport avec les jeux pour enfants, d'ailleurs.
Il y a moins de meurtres,
ouais,
dans
bizarrement,
les jeux pour enfants.
C'est dommage, parce que peut-être on tuerait trop les enfants, c'est pour ça. Et et c'est un super petit jeu de déduction. Vraiment, en fait, on vient de parler de Watson et Holmes. C'est un jeu de déduction, mais vraiment déduction scénario. Là, on est dans un jeu de déduction, mais déduction un peu élimination, par élimination. Et c'est-à-dire que c'est très rejouable. Enfin, les problèmes des scénarios, c'est vite difficile de rejouer. Là, on peut toujours rejouer. C'est à l'infini. C'est hyper efficace et c'est un jeu pour lequel la variante à deux est plus difficile selon moi et plus stratégique que la variante, enfin, celle à trois ou quatre. Et c'est c'est très efficace. Et puis, c'est visuellement, c'est très chouette. Bah, comme Watson et Holmes dans un autre style. Hein, c'est Tout est très chouette à visuellement. On est vraiment dans des beaux dessins. C'est pas non plus trop. Ça reste du classique Sherlock Holmes sans être non plus trop vu ou du trop utilisé.
Ok. Alors, vous remarquerez peut-être que il a eu un nouveau micro, mais il n'est pas encore au point au niveau du son. Donc le son n'est pas optimal et on s'en excuse, mais c'est tout à fait audible. Alors c'est peut-être un coup de Moriarty, on ne sait pas. On va écouter Je suis jeu qui va nous parler de Sherlock 13.
J'ai l'histoire. Il descend dans une grotte et il va beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'il pouvait imaginer.
Je vais faire les décors en n'ayant pas peur de la couleur. Je vous préviens, apportez vos lunettes de soleil.
Moi je dessine les animaux.
Je t'envoie des iguanes. C'est extraordinaire.
Ah oui, quel beau monstre. Je me suis fait un petit costume, simple et sympa.
Et pourrais-tu prendre un petit accent du terroir ? Vous êtes prêts ?
Oui !
Si le jeu m'était compté.
Hello Holmes, vous avez vu ?
Pas maintenant, Watson, pas maintenant.
Oh, je vois que vous êtes déjà en train de lire l'affaire.
Oui, mon cher Watson, et je vous saurais gré de ne pas me déranger.
Mais Holmes, c'est grave. Vous êtes parmi la liste des suspects.
Tout comme vous, mon cher Watson, ainsi que notre bon inspecteur Lestrade et 10 autres.
Oui, c'est bien cela qui m'effraie. Pas vous ? Il paraîtrait que le suspect se fait passer pour l'un d'entre nous, un certain Arsène Lupin. Je suis sûr que ça ne peut être que Moriarty.
Puis-je ? Vous savez bien que je déteste entendre son nom, et bien que ça ne me fasse pas plaisir. Ce n'est pas sûr que ce soit lui. D'ailleurs... Qu'est-ce qui me prouve que c'est pas vous ? Hein ? Ça y est, je sais comment résoudre l'affaire.
Comment ça, déjà ?
Élémentaire, mon cher Watson. Regardez, j'ai réalisé 13 petites cartes avec un dessin de chaque suspect, y compris le mien et le vôtre, évidemment. Admirez la ressemblance.
Oui, si on veut.
Comment ça, si on veut? Bon, j'y rajoute les noms. Voilà.
Vous êtes rapide?
On ne va pas non plus laisser attendre l'auditeur pendant 5 minutes non plus. Sinon, on va le perdre.
C'est pas faux, mon cher. Mais dites-moi, Holmes, qu'est-ce que tous ces symboles sur les cartes?
Justement. C'est la clé et toute la preuve de mon génie.
Je ne comprends pas.
Ah oui. Pardonnez-moi. Je dois expliquer pour les esprits faibles, c'est vrai. Voyez-vous, sur chaque carte, j'y ai ajouté des symboles.
Oui, je sais, je viens de vous le demander.
Ne m'interrompez pas, Watson.
Mais...
Vous y trouverez le symbole pipe, par exemple. Vous savez combien j'aime fumer la pipe, Watson.
Ah oui...
Donc je disais le symbole pipe. L'ampoule pour mes éclairs de génie. Le point que j'aimerais donner à mon autre cher Bref. L'insigne de police pour notre cher Lestrade. Votre carnet de notes. Le collier me rappelant mon fameux coup d'éclat de notre précédente affaire sur les joyeux de la reine. L'œil, organe suprême permettant de déduire si aisément. Et enfin le crâne pour la victime.
Et donc?
Enfin, Watson, regardez de plus près chaque carte.
Elles n'ont pas toutes les mêmes symboles?
Exact, mais encore.
Je ne sais pas.
Mais enfin, Watson, c'est grâce à ça que nous allons confondre le vrai coupable. Suivez-moi bien. Sur chaque carte, vous pouvez donc retrouver des symboles différents. 2, 3, 4, peu importe. Mettons que Toby, notre fidèle compagnon ici présent, joue avec nous.
Ah, c'est un jeu, finalement?
Watson, je vous en prie, essayez de suivre. Bon, je donne au hasard 4 cartes à Toby. 4 cartes à vous, 4 à moi, et nous en écartons une qui fera office de coupable.
Si jamais nous avions été 4.
Watson, il suffit de les diviser par 4, 3 chacun donc, et une écartée.
Très bien, nous avons 4 cartes, et qu'en faisons-nous?
Ah oui, attendez, les voici. Prenons chacun ce petit bout de papier que je vous ai préparé. Vous retrouverez dessus, en premier lieu, un petit tableau avec les symboles et leur présence au total dans le jeu. Comme par exemple la pique que vous pourrez retrouver 5 fois. Sur chaque ligne de ce petit tableau, vous y noterez donc mon prénom, le vôtre et celui de Toby. Vous me suivez toujours?
Oui, mais je ne vois toujours pas où vous voulez en venir.
Patience, patience... En dessous de ce tableau, vous y retrouverez les 13 potentiels coupables ainsi que les symboles qui sont présents sur leur carte. Et juste à côté, une petite case. Jusque-là, tout va bien, Watson?
Oui, c'est à peu près clair.
À la bonne heure. Vous vous souvenez que je vous ai donné 4 cartes au départ, mon cher?
Oui.
Vous pouvez notamment désormais cocher chaque personne de vos 4 cartes sur la petite case pour signifier qu'ils ne sont pas les coupables.
Oui, mais...
Et ne m'interrompez pas tout le temps, Watson. Donc je disais... Ah oui. Ensuite, il vous faudra donc deviner qui est le 13e coupable ici écarté. Pour ce faire, et à tour de rôle, nous pourrons soit poser une question de deux types, soit faire une accusation.
Ah, et quelle question?
C'est simple, je peux à mon tour vous poser ainsi qu'à Toby. Combien parmi vous avait le symbole ampoule, par exemple? Afin de me répondre, si vous avez un personnage parmi vos 4 qui dispose de ce symbole, vous lèverez la main pour me le faire savoir. À partir de là, et suivant ce que j'ai déjà chez moi, je pourrais sûrement écarter d'autres suspects de la liste.
Et quel est l'autre type de question, Holmes?
J'y viens. L'autre possibilité à votre tour est de poser précisément à un autre joueur, en l'occurrence vous ou Toby, combien de symboles ampoules il a. Vous devez alors me répondre le nombre total d'ampoules que vous avez sur l'ensemble de vos 4 cartes. Simple, non? Et là encore, les déductions seront si évidentes que vous pourrez encore écarter des suspects.
Et l'accusation, alors?
Ah, ma préférée. Oui, car je suis sûr d'y arriver avant vous. À votre tour, vous pourrez prononcer haut et fort celui que vous pensez avoir commis le délit, et vous regarderez secrètement la carte écartée. Si jamais la personne est effectivement celle que vous avez prononcée, vous remportez la partie. Bah, sinon vous perdez instantanément, et offrez notamment la possibilité aux autres joueurs d'écarter un suspect s'il n'avait pas encore été éliminé de la liste.
Et que se passe-t-il si jamais tout le monde accuse une personne qui n'est pas le coupable?
Ça ne se peut pas, enfin. Disons que si jamais il ne reste qu'une personne en jeu, celle-ci aura sans panache remporté la mise. N'est-ce pas brillant quand même, Watson?
Oui, très. Une question me vient maintenant. Et si jamais nous n'avions joué que vous et moi?
Eh bien, dans ce cas-là, le premier type de question serait caduc, Watson.
Quant aux cartes de départ, 6 chacun et une écartée?
Non, trop simple. Beaucoup trop simple, Watson. Non, laissez-moi réfléchir. Ah oui, ça y est. 5 chacun, et on écarte 3 cartes que l'on place face cachée sur la table. Celle du milieu est le coupable. À votre tour, vous pouvez remplacer le premier type de question qui n'a plus lieu d'être par le remplacement d'une de vos cartes avec l'une des deux cartes posées de chaque côté du coupable. Et vous révélez la carte remplacée. Cela peut être hautement stratégique. N'est-ce pas, Watson ?
Oui, c'est sûr. Par contre, n'avez-vous pas peur que les parties soient trop rapides ?
Comment ça, rapide ?
Eh bien oui, voyez-vous, vous avez des symboles qui sont au total de 3 et d'autres de 5. Si jamais vous recevez les bonnes cartes, vous pouvez déduire très rapidement qui est le coupable. Disons en 1 ou 2 tours.
Personne. Je dis bien personne ne peut remettre en cause mon génie. Même pas vous, Watson.
Oui, enfin là, même moi, je...
Personne, je dis. Ce petit jeu n'est-il pas simple ? Ne dépoussière-t-il pas à souhait ce jeu ridicule qui était sorti il y a longtemps, copiant mon génie ?
Ah, vous voulez parler du Cluedo, mon cher ?
Oui, c'est ça. N'est-il pas mieux que celui-ci ? Les parties peuvent être rapides, soit, mais vous pouvez du coup les enchaîner rapidement et passer du bon temps.
Certes, certes. N'empêche qu'il y a une faille dans votre récit qui ne plaira sûrement pas à tout le monde. Imaginez que c'est votre première partie et qu'une autre personne trouve au bout d'un tour. Quel sera votre sentiment ? Déjà fini ? Comment ? Que ? Quoi ? J'ai rien compris.
Je dis que la personne qui a trouvé est un esprit brillant, tout comme celle qui a créé ce jeu.
D'ailleurs, en parlant de ça...
Quoi ? Vous remettez en doute mon intelligence ?
Non, mais le jeu que vous décrivez là, il a déjà été fait.
Comment ?
Oui, vous n'avez peut-être pas lu tout l'article, mais votre exposé est dedans. Quelqu'un a déjà mis en place votre petit jeu pour confondre le suspect.
Edward ?
Oui, Holmes. Elle a même affublé ce petit jeu de votre surnom, Sherlock Trace, qu'il se nomme. Trace étant le nom de suspect.
Merci, Watson, ça je le savais. Alors, un jeu de Hope S. Wang, illustré par Vincent Dutré, édité par Letaya, que l'on peut retrouver pour la somme de 12,90€ chez Philibert. C'est un scandale, Watson! Allez, prenez votre manteau, dépêchez-vous, je veux tirer cette affaire au clair.
Oui, j'arrive tout de suite. Sachez aussi, les amis, qu'il y a un mode expert dans lequel vous pouvez choisir l'ordre des 4 personnages donnés en début de partie. Si jamais on pose la question sur la présence d'un symbole et que ce dernier n'est que sur votre 3ème carte, vous ne serez pas obligé de lever la main, tout comme il ne prendra pas en compte les symboles de cette carte pour répondre au nombre total de symboles demandés par un autre joueur. De quoi rajouter du piment à vos parties.
Watson !
Bon, je vous laisse. Rappelez-vous, Sherlock Trace, un jeu de Hope S. Wrong, illustré par Vincent Dutrait, édité par Letaya, 12,90€ chez Philibert. Jouez bien!
Merci pour cette présentation de Sherlock Trace. Et maintenant, on va aller voyager un peu dans le temps. Alors, avec Dany qui fait un peu écho à l'invité de ce mois, Ravensburger, et elle nous a trouvé une vieillerie Ravensburger, donc ça c'est bien. Et en plus, comme c'est bientôt Halloween, elle a choisi un jeu dans le thème de Halloween, donc double thématique. Bravo Dany. Et donc elle nous parle du fantôme de minuit. On l'écoute tout de suite.
Bonjour à tous. Comme l'interview du mois était consacrée à Ravensburger, j'ai choisi de vous parler d'une vieillerie de cet éditeur, à savoir Le Fantôme de Minuit, édité en 1989 et créé par Wolfgang Kremer. Le jeu se déroule dans un château où l'on donne un grand bal qui va être interrompu après les 12 coups de minuit de l'horloge de la tour. C'est en effet à ce moment-là qu'Hugo, le fantôme du château, apparaît et sème la terreur. Hugo, fantôme de son état, fait peur, à tel point que les joueurs qui le croisent ou qui se font capturer récoltent des points d'épouvante. Et c'est bien dommage, car plus on a de points d'épouvante, plus on perd. Autrement dit, celui qui a le moins de points d'épouvante à la fin de la partie a gagné. Le jeu comporte 30 figurines de différentes couleurs. Le nombre de figurines par joueur dépendra du nombre de joueurs. De 6 figurines pour 2 joueurs à 2 figurines par joueur pour 6 à 8 joueurs. On commence le jeu par le placement de figurines où chaque joueur pose à tour de rôle une figurine sur une case vide du plateau. Ensuite, les joueurs vont lancer le dé pour faire progresser leur figurine du nombre de points obtenus. Une face du dé est dédiée à Hugo qui va avancer de 2 à 3 cases si cette face apparaît. Le fantôme est à la base caché à la cave. Quand il a gravi toutes les marches de l'escalier qui y mène, les joueurs peuvent essayer de déplacer leurs figurines dans les chambres du château pour les cacher. Une fois caché dans une chambre, la figurine est sauvée pour le reste de la partie. Le château regorge d'autres pièces où se cacher. D'une part, la bibliothèque et la lingerie, qui comportent un petit fantôme et infligent un petit point d'épouvante. Et d'autre part, la chambre de chasse ou la salle de jeu, qui offre 3 points de bonus, mais dans lesquels on ne peut entrer que si l'on a fait le nombre exact de points au dé. Hugo, de son côté, poursuit les figurines et les capture au fur et à mesure de ses pérégrinations dans le château. Chaque figurine attrapée est déposée dans le grand escalier qui mène à la cave, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les figurines soient cachées ou attrapées. À ce moment-là, on compte les points. Les points d'épouvante pour ceux qui se sont fait attraper ou qui se sont cachés dans des pièces hantées, et les points bonus pour ceux qui se sont cachés dans la salle de jeu ou la chambre de chasse. À la fin de ce décompte, on replace les figurines sur le plateau et on enchaîne sur 2 autres parties. Le vainqueur est celui qui a le moins de points d'épouvante à l'issue de la 3e partie. Le jeu est simple et son côté stop ou encore fonctionne plutôt bien. Les illustrations du plateau de jeu réalisées par Nicole Baron et Bernard Giroux sont fort sympathiques et les figurines façon aristocrate à la fête sont originales. C'est un très bon exemple du jeu familial de chez Ravensburger avec ses règles simples et son matériel dédié. Il a d'ailleurs bien dû se vendre à sa sortie car il a été réédité plusieurs fois, en 97 chez Ravensburger sous le nom de Hugo le fantôme du château et par Amigo en 2013 avec un nom allemand que je ne me risquerai pas à prononcer. Cette dernière version est d'ailleurs disponible chez Philibert. Faute de prononcer le nom, je mettrai le lien vers la page dans le billet de la chronique. Bien entendu, j'ai un faible pour la vieille version que l'on trouve de temps en temps en vide-grenier. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et en attendant la prochaine vieillerie, je vous dis, jouez bien!
Merci Dani pour cette chronique. Alors toi, tu avais joué au Fantôme de Minuit dans ta jeunesse, ou c'était un peu...
C'est passé sous ton radar. Je suis toujours très jeune, mais non, j'ai malheureusement, je connaissais pas du tout ce jeu. Pourtant, j'avais quand même quelques jeux enfants. Mais j'avais personne pour jouer avec moi, c'est pas la même chose, mais mais non, je connaissais pas, mais ça a l'air plutôt pas mal. Enfin, moi, ça m'a donné envie de le découvrir, donc moi aussi, je fais des brocantes, donc j'ouvrirai l'œil. C'est le genre de jeu qui peut effectivement intéresser. Et puis, c'est une thématique qui plaît toujours. Enfin, avec les enfants, ça marche toujours, les fantômes et autres créatures. Voilà, voilà, c'est... Ça fait beaucoup.
Voilà. Et en plus, si vous en voulez en savoir plus donc sur Ravensburger, on vous renvoie sur notre épisode 90 interview avec Jean-Baptiste Ramasamy qui nous a parlé de Ravensburger. On va enchaîner ensuite avec Le Pion Fesseur qui nous parle de Dice Forge. Alors, pas vraiment de Dice Forge, mais des jeux à concept fort. Donc là, le concept, c'est de forger des dés. Et donc, on l'écoute tout de suite.
Salut les joueurs, salut les joueuses. Je suis le Pion Fesseur et bienvenue dans cette seconde chronique des analyses du Pion Fesseur. Vous n'avez pas pu le manquer, cette année est sorti chez Libellude le jeu Dice Forge. En même temps, ça faisait déjà 2 ans qu'on voyait le prototype tourner au niveau des salons, et la communication autour du jeu a bien fonctionné. Le jeu a rencontré un franc succès, on en a pas mal parlé sur Twitter, et je pense qu'il y a moyen qu'on s'en souvienne encore dans les années à venir. Je pense qu'une des raisons principales de son succès vient de son concept, que vous connaissez probablement. C'est un jeu où chaque joueur va avoir des dés qu'il va lancer plusieurs fois dans la partie, et surtout, il va pouvoir en changer les faces. Un principe ultra simple que le titre même du jeu évoque. Autant dire que le jeu a été marketé essentiellement autour de son concept. Dice Forge n'est évidemment pas le premier à faire ça, et c'est un principe qu'on retrouve dans d'autres domaines culturels, et notamment le cinéma. Jurassic Park, Les Dents de la Mer, Toy Story, Un Jour Sans Fin et Matrix, dans le jargon du 7e art, on appelle ça des films high concept, ce qu'on pourrait traduire en français par des films à concept fort. Et je suis à peu près persuadé qu'on peut imaginer la même chose avec les jeux de société. En reprenant simplement l'idée du high concept au cinéma, essayons dans cette chronique aujourd'hui de définir ce qu'est un jeu de société à concept fort. Évidemment, la définition ne sera pas parfaite, puisque même pour le cinéma et pour tout ce qui a trait à l'art en général, on n'est pas sur des définitions super précises, mais plus sur des constats empiriques. On observe ce qui se fait et on essaye d'en déduire des espèces de règles. Mais revenons-en à nos jeux de société à concept fort. En fait, j'aurais tendance à dire que cette définition tient sur 2 points. Une idée forte et un fort potentiel. Une idée forte, ça veut dire que le principe de votre jeu, disons une grosse majorité de ses mécaniques, peut être résumé en une seule phrase, assez courte bien sûr. Je l'ai dit tout à l'heure, le principe de Dice Forge par exemple peut se résumer de cette manière. C'est un jeu où l'on change les phases de ses dés au fur et à mesure de la partie. Mais une phrase courte, ça ne suffit pas. pour qu'une idée soit forte, il faut aussi qu'elle soit unique et originale. Alors attention, ça veut pas dire que l'idée de votre jeu n'a jamais été utilisée avant. Ça veut surtout dire que le jeu se démarque d'une certaine manière de tous les autres jeux qui existent à l'heure actuelle. C'est pour ça que dire « c'est un jeu de gestion de ressources », ça ne fonctionne pas comme concept fort, car à l'heure actuelle, il y a beaucoup de jeux de gestion de ressources qui existent. Donc ça, c'était le premier point, une idée forte, c'est-à-dire une idée originale et explicable en une phrase. Mais de nouveau, ça ne suffit pas. Encore faut-il que le jeu soit bon. Et c'est là le deuxième point. Le jeu doit avoir un fort potentiel. Alors là, c'est assez subjectif, mais en gros, le public doit être capable, rien qu'avec votre idée, de comprendre tout l'intérêt de votre jeu. Si c'est un party game, on imagine immédiatement les situations amusantes qui peuvent en découler. Si c'est un jeu de gestion, on comprend tout de suite pourquoi le jeu va nous poser des choix cornéliens, etc., etc. Je pourrais proposer le jeu le plus original du monde, si c'est un jeu de pur hasard que je veux éditer dans le monde du jeu de société moderne, il a clairement pas un potentiel de dingue. Un jeu à concept fort, c'est donc une idée tellement efficace que quand vous l'entendez pour la première fois, vous vous dites que c'est tellement évident que vous vous demandez pourquoi personne n'y a pensé avant. Du point de vue de l'éditeur, c'est donc un avantage marketing considérable, et c'est à eux d'exacerber leur communication autour de leur concept. Comme je vous l'ai dit, Diceforge explique son concept rien qu'avec le titre de son jeu. Mais on peut aussi prendre l'exemple de La Nuit des Magiciens, où il est écrit sur la boîte « Le jeu qui se joue dans l'obscurité », ou encore « Imagine », où il suffit de regarder la boîte pour comprendre le principe du jeu. On peut aussi citer la gamme chez Blue Orange de party game dans des grosses boîtes, comme Dr. Eureka, Top Zat ou très récemment le Manoir Infernal, où les boîtes possèdent une partie transparente afin de voir le matériel du jeu, et donc de comprendre rapidement de quoi il en retourne. Le comble étant pour le Manoir Infernal où l'on peut carrément jouer au jeu avant même de l'avoir acheté. Pour résumer tout ça, un jeu à concept fort, c'est tout simplement un jeu dont on explique le principe rapidement, et dont l'efficacité semble évidente. Autant dire qu'avec des critères aussi subjectifs, tout n'est pas blanc ou noir. Un jeu peut avoir un concept plus ou moins fort. De même, ce n'est pas parce qu'un jeu a un concept fort qu'il est meilleur qu'un autre. Il y a plein d'autres critères qui entrent en compte, comme l'exécution de ce concept, par exemple. Si on prend les jeux de gestion de Stefan Feld, c'est en général des jeux qu'on pourrait appeler à concept faible. Il y a tellement de mécaniques entremêlées qu'il est impossible de résumer simplement le principe de l'un de ces jeux, et par extension, c'est difficile de s'imaginer sans y avoir joué si le jeu va nous plaire. Néanmoins, l'exécution de ces mécaniques est toujours excellente. Les jeux sont bien équilibrés, se renouvellent bien et fourmillent de bonnes idées, qui sont même parfois un peu innovantes. Mais voilà, c'est pas un gros concept efficace, mais plutôt plein de petits concepts qui s'imbriquent bien les uns avec les autres, et on le constate dans le monde ludique, ça plaît aussi à pas mal de personnes. Le concept ne fait pas tout, mais c'est toujours sympa de voir des jeux qui osent s'aventurer vers de nouvelles idées, et certains finissent par devenir les précurseurs d'une nouvelle mode, comme Dominion pour le deck building. Essayons de garder de la créativité dans le monde ludique, et arrangeons-nous pour qu'il y ait toujours de nouveaux concepts dans les rayons de nos boutiques préférées. Et vous, est-ce que vous connaissez des jeux dont le principe est tellement simple et efficace que ça vous a marqué? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et en attendant, jouez bien!
Merci Pionfesseur, on rappelle qu'on peut le retrouver, le Pionfesseur, sur sa chaîne YouTube. Et toi, Paul Garat, t'as joué à Diceforge?
Je suis obligé d'avouer que non. J'ai l'impression que c'est un énorme carton pour ce jeu.
Il buzz bien.
Ouais, voilà, tout le monde a vraiment eu l'air de bien aimer. Enfin, moi, je connais beaucoup de gens qui l'ont acheté, qui l'ont même acheté, enfin, sans avoir jamais testé le jeu. Je sais pas pourquoi, moi, ça m'a pas attiré plus que ça, donc j'ai pas craqué. Mais je serais quand même curieuse de le tester parce qu'il y a eu tellement de buzz dessus que je me dis que ça doit forcément avoir quand même, ça doit être intéressant au moins de l'essayer pour se faire, pour se forger sa propre opinion.
Oh, joli. Ouais, bah oui, c'est vrai qu'il a, il a bien buzzé. On en parle depuis assez longtemps parce qu'il cherchait le meilleur moyen de réaliser, donc de pouvoir changer des faces sur les dés.
Ouais, sur les dés.
Donc ils ont trouvé un truc qui leur convient, donc il est enfin sorti. Et donc du coup on enchaîne sur ta chronique, Paul Garat.
Oui.
Donc tu nous parles de quoi?
Alors ce mois-ci je vais vous parler de lutins et de pingouins. Il n'y a pas trop de thématiques sauf que ça rime, voilà, je m'excuse. Je sais pas,
thématique poétique.
Voilà, exactement. Donc, vous allez le découvrir dans la chronique, c'est des jeux qu'on a à la maison. Il y en a un qui est vraiment axé petit-petit, hein, 3 ans. Donc, c'est les lutins, c'est le côté lutin des choses. Un jeu qui a un succès fou, même si, voilà, en tant qu'adulte, on peut mettre quelques réserves. Vraiment, moi, ce jeu marche du feu de Dieu à la maison. Et l'autre jeu, on parle de pingouins. Là, c'est un jeu dont on a déjà parlé ici. High School, qui a donc été primé très récemment, puisqu'il a eu le Kinderspiel 2017, enfin celui qui a été remis en juin dernier. Et donc là, c'est plus sous l'aspect vraiment, est-ce que c'est vraiment un jeu pour les enfants ou pas du tout ?
Pour les enfants.
Ouais, voilà, c'est sous cet angle, puisque il avait déjà été chroniqué, hein, mais là, l'idée c'était vraiment d'en parler du point de vue enfant.
Bah, on va t'écouter tout de suite.
Maman, je m'ennuie.
Tu veux qu'on fasse un jeu ?
Oui, tout sauf le Monopoly.
Tu connais Marrakech ? C'est comme le Monopoly, mais en 100 fois mieux.
Bonjour les papas joueurs et bonjour les mamans joueuses. Je suis toujours Paul Gara et je m'adresse toujours aux parents joueurs. Aujourd'hui, dans cette chronique destinée aux joueurs nés, nous parlerons de lutins et de pingouins, ce qu'elle mérite de rimer, et surtout de concerner deux jeux sortis plutôt récemment. Tout d'abord, après Premier Verger, poursuivons dans les jeux à vocation pédagogique avec Team Ted Arrangé, sorti cette année et édité par Matago dans la gamme Matago Kids. Team Ted Arrangé est un jeu compétitif de Marco Teubner, illustré par Anna Petzke, pour 2 à 4 joueurs, accessible aux enfants à partir de 3 ans. Il est disponible sur le site Philibert à 21,95€. Il était à moitié prix pendant les soldes, mais les soldes c'est fini. Le matériel est composé de 6 morceaux de plateau de jeu en carton, chacun d'une couleur prédominante différente et correspondant à une pièce ou une zone de la maison. 18 objets en carton s'insérant 3 par 3 dans chacun des morceaux de plateau de jeu. Une figurine Tim le lutin, 6 jetons en bois, un dé de couleur et un livret de règles. Lors de la mise en place, les 6 morceaux du plateau de jeu sont posés de façon à former un cercle au centre duquel on dispose les 18 objets en carton. À chaque tour, on lance le dé. Selon la couleur sortie, on place la figurine de Tim sur le morceau du plateau de jeu de ladite couleur, puis on choisit l'un des objets en carton s'y insérant à la manière d'un puzzle. Par exemple, le bleu correspond à la salle de bain, et bien dans les objets bleus, si on tire le bleu au dé, dans les objets bleus, on a le choix entre le dentifrice, le petit canard pour le bain, etc., etc. Donc chaque morceau de plateau, ayant 3 emplacements, lorsque l'on place le 3e morceau et que le plateau est ainsi complet, on gagne un jeton. Une fois tous les objets en carton placés, celui qui possède le plus de jetons en bois a gagné. Alors que pensez-vous de ce brave Tim le lutin qui va apprendre à vos enfants à ranger toute la maison comme des grands ? Côté matériel, le jeu est plutôt réussi. La figurine de Tim le lutin plaît aux tout-petits, mais en réalité, il sert surtout aux enfants qui ne connaissent pas encore bien leurs couleurs. Ce qui n'est évidemment pas le cas de ma fille exceptionnelle qui distingue déjà toutes ses couleurs, et même le turquoise, le parme, le taupe, couleurs dont pourtant plein d'hommes réfutent l'existence malgré toutes les émissions de déco usant et abusant de cette couleur. Les illustrations, quant à elles, semblent tout droit sorties d'un magazine pour enfants. Donc pour les parents masochistes qui abonnent leurs enfants à des revues, qu'ils devront ensuite eux-mêmes lire plusieurs fois, on est clairement du côté de Picotis ou Abricot. C'est mignon, coloré, mais soyons honnêtes, c'est un petit peu cucu. Et oui, ce serait bien parfois d'oser des illustrations un peu moins enfantines pour les jeux enfants. Alors je ne demande pas des boîtes de jeux illustrées façon Francis Bacon, mais je trouve que souvent, toutes les illustrations pour enfants sont dans le même ton, sans de véritable parti pris esthétique. Côté mécanisme, le jeu est simple à appréhender. Ceci dit, en tant qu'adulte, je suis moyennement convaincue par le mécanisme de victoire du jeu, qui est assez aléatoire et pas très stratégique. En effet, il suffit d'être le 3e à tirer une couleur pour gagner le jeton en bois valant un point de victoire. Donc quel est l'intérêt alors à être le 2e et à placer le 2e objet sur chaque morceau de carton ? Le jeu en effet aurait gagné à être coopératif ou à être étoffé pour offrir un vrai challenge aux joueurs ou un peu plus de stratégie. L'apport du jeu réside plutôt dans l'apprentissage de la règle et sa retranscription concrète. Pour ma part, j'ai quand même apprécié voir ma fille galérer à insérer les objets dans les emplacements avec la délicatesse d'un troll, puis réussir à s'appliquer pour les emboîter correctement. En revanche, niveau rangement de la chambre dans la vraie vie, je n'ai observé aucun progrès, aucune vocation. Seule la menace semble toujours fonctionner en la matière. En conclusion, Team Ted Arrangé est un jeu sympathique, très accessible à un enfant de 3 ans, voire 2 ans et demi. C'est un jeu que ma fille réclame souvent, et auquel il lui arrive même de jouer seul, ce qui est le fantasme absolu de tout parent aspirant à quel moment de tranquillité. Honneur maintenant au Kinderspiel de cette année 2017, High School. Alors pourquoi parler à nouveau de ce jeu qui a déjà été chroniqué par Cyrus en novembre 2016 ? Eh bien parce que justement à l'époque, Cyrus s'interrogeait sur le point de savoir si ce jeu était réellement destiné aux enfants. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, High School est un jeu finlandais compétitif de Brian Gomez, édité par Brain Games. Il se joue de 2 à 4 joueurs dès l'âge de 6 ans et est disponible au prix de 32,50€ sur le site Philibert. Son matériel se compose de 5 boîtes assemblables représentant les 5 pièces de l'école des pingouins. Et oui, les pingouins vont à l'école comme nos enfants. Chacune de ces pièces étant reliée aux autres par 2 passages. 4 pions pingouins de couleur représentant chacune l'un des joueurs. De 4 cartes d'identité pingouins. Et oui, les pingouins aussi ont des cartes d'identité. Et peut-être même des passeports biométriques quand ils veulent voyager aux États-Unis. 2 petits poissons. 3 par couleur de joueur, qui a accroché au-dessus de certains des passages reliant les différentes pièces de l'école, et de 3 petits poissons blancs destinés à faire tenir le plateau de jeu. 2 cartes poissons de valeurs différentes permettant d'attribuer les points de victoire. Le jeu se déroule en autant de manches que de joueurs. À chaque manche, on incarne chacun son tour le surveillant de l'école. Son objectif, rattraper les petits garnements pingouins avant que ceux-ci ne récupèrent les poissons de leur couleur éparpillés sur le plateau de jeu. La manche s'arrête lorsque le surveillant a rattrapé tous les garnements pingouins ou lorsque l'un des garnements pingouins a récupéré tous ses poissons. Comme High School est un jeu de pichenette, on déplace son pingouin en tapant littéralement dedans pour le faire passer sous les passages où sont accrochés les poissons ou pour toucher les garnements lorsque l'on incarne le surveillant. Alors pour le détail des règles, je vous renvoie encore une fois à la chronique de Cyrus qui explique cela beaucoup mieux que moi. La question fondamentale est donc de savoir si ce jeu, et notamment la technique de la pichenette, est vraiment accessible à un enfant. Pour ce faire, avec toute la conscience professionnelle dont je suis capable, puisque je suis encore en période d'essai chez Proxy Jeux, j'ai procédé à de multiples tests en convoquant chez moi des hordes d'enfants braillards âgés de 6 à 10 ans, à qui j'ai préparé des tonnes de cookies pendant qu'ils jouaient à High School. Alors non, je vous rassure, mon amour des enfants se limitant à mes enfants, justement, je me suis contentée d'envoyer mon fils à l'école avec ce jeu pour les derniers jours de classe au mois de juin dernier. Je vous rapporte donc ici les impressions de ses camarades de classe. Tout d'abord, le matériel. Lorsque l'on ouvre la boîte et qu'on l'assemble pour former le plateau de jeu, on entend un « waouh » d'admiration. On sent déjà les enfants intéressés. Pour l'anecdote, il y en a même un qui a dit « oh, il doit être cher ce jeu !» Voilà, celui-là, il va pleurer quand il verra le prix des Kickstarter. La technique de la pichenette, elle, n'est pas aussi évidente que ça. Et oui, en effet, pichener, alors je ne sais pas si ça existe, mais sinon je viens de l'inventer, ce n'est pas tirer aux billes, hein. Il faut un tout petit peu d'adaptation pour réussir à propulser son pingouin avec la bonne dose de force et de précision. Même les adultes galèrent un peu, et moi la première. À 8 ans, ils y arrivent plutôt bien. À 6 ans, un peu moins. Mais ils réinventent le geste et réalisent des pichenettes pas du tout académiques, mais acceptables, pour peu que l'on soit un peu tolérant avec eux. Et d'ailleurs, peu importe, car l'objectif est rempli. Les enfants adorent et rigolent comme des baleines, et pas comme des pingouins. Tant pis pour les pichenettes parfaites, tant pis pour les points de victoire. Ce qu'ils adorent, c'est faire évoluer les pingouins dans le décor, qu'ils récupèrent ou non les poissons, faire se télescoper les pingouins. Le fun est là de façon très simple. La mise en place est assez facile, ce qui leur permet de jouer seuls sans besoin d'un adulte pour installer les boîtes et leur expliquer les règles. Le risque, c'est qu'ils finissent par faire n'importe quoi. Par exemple, du baby-foot pingouin high school, ce qui n'est pas tout à fait recommandé pour la boîte de jeu. Et oui, parce que le petit défaut du jeu, c'est qu'à force de courses effrénées dans le décor, les boîtes ne sont pas forcément toujours bien reliées entre elles, ce qui freine les pingouins lorsqu'ils passent d'une pièce à l'autre. En résumé, High School est un jeu vraiment fun, que vous soyez adulte ou enfant. Les enfants y jouent, eux, de façon très spontanée, et pour occuper un groupe de marmots, un tout petit peu soigneux quand même pour que votre boîte ne soit pas ravagée, c'est le succès garanti. Voilà, cette deuxième chronique est terminée. J'en profite pour vous préciser à nouveau que le week-end du 18 novembre, les Chevaliers de Gobelitz organisent un festival des jeux à Gouvieux dans l'Oise, sur un thème spécial Halloween. Et du coup, pour la prochaine chronique, période oblige, je prépare moi-même un spécial Halloween. En attendant, jouez bien, et surtout avec vos enfants.
Ben, merci Paul Gara pour cette chronique. Donc ouais, les enfants ils maltraitent un petit peu les boîtes de jeux de pingouins.
Oui, alors mon fils tout seul non, pas du tout, parce que j'ai un enfant.
Parce que tu l'as bien éduqué.
Exactement, là je suis une mère parfaite, donc mon fils est très soigneux.
Personne n'en doute.
Et c'est vrai que les enfants ils, en fait. Il y a des parents qui n'aiment pas du tout ça, des parents joueurs qui sont très... il faut respecter les règles et tout. Moi, je suis un beaucoup plus laxiste. Et je les laisse, parfois, je laisse un peu faire aussi, parce que c'est pas non plus... on est là pour jouer, pas pour non plus que ce soit trop strict. Et c'est vrai que la boîte, il y a eu une ou deux fois où j'ai eu un peu peur. Mais ça prouve aussi que le jeu leur plaît, la thématique leur plaît. Je pense que la conception des boîtes joue beaucoup dans l'attrait pour les enfants du jeu. Donc, quand ils ont fait du baby foot avec les pingouins, là, j'ai. Enfin, ça, pour parler franchement, ça a crié très fort. J'ai fait la maman mégère plus que la maman parfaite.
Voilà. Et t'as ramassé les carnets comme le surveillant dans
un autre school. Ouais. Je les ai privés de dessert, privés de poissons pêchés, poissons frais à manger, à même cru. Non.
Ok. Eh ben on va enchaîner avec la dernière chronique, la chronique de Acariâtre, donc qui s'enfonce toujours plus profondément dans le territoire ludique, et il nous parle de la classification des jeux de Roger Caillois. Donc les quatre classifications de jeux. On l'écoute tout de suite.
Ludo Incognito. À la découverte de la faune ludique.
Journal de bord de l'expédition en Ludo Incognita. Jour 1. Sur les traces de Roger Caillois, nous avons laissé derrière nous les trop sérieux Homo Ludens cubes en bois, tout écartelés qu'ils étaient entre les sommets de la Gone et la vallée de l'Aléa. Avec une certaine appréhension, nous nous sommes enfoncés plus profondément dans les terres. Jour 2. Cette nuit, nous avons entendu des voix multiples et toutes proches. Nous sommes restés sans bouger. Plus tard, on retentit des rires, des larmes. Ce matin, des masques et des colifichets traînaient sur le sol, signés par ceux du tohu-bohu nocturne qui s'est joué ici. Le doute n'est plus permis. Nous atteignons le territoire du Mimicry. Dans son livre phare « Les jeux et les hommes », Roger Caillois identifie quatre catégories de jeux et de joueurs. Les deux premiers déjà évoqués dans la chronique précédente sont l'agone, la compétition, et l'aléa, le hasard. Ces deux composantes du jeu permettent, d'après l'auteur, de s'évader du monde en le faisant autre. Les deux dernières catégories de cette classification introduisent une autre manière d'évasion. Elles permettent, toujours d'après l'auteur, de s'évader du monde en se faisant soi-même autre. C'est d'abord la catégorie du simulacre, de la simulation, du rôle. Elle s'intitule « mimicry » ou « mimétisme » en anglais. Roger Caillois a une vision très large du jeu. Derrière cette appellation, il regroupe en effet des pratiques aussi variées que le sport, le théâtre, les jeux d'enfants ou les jeux traditionnels. Dans le jeu de société, le mimicry se rapporte directement au thème et à l'histoire. Cet ingrédient miroir de la mécanique. Le mimicry, c'est le jeu de rôle, au sens propre, celui qu'on incarne en jouant. Jour 3. Après une nouvelle journée complète de marche dans une chaleur étouffante, nous nous sommes écroulés sous nos tentes. Mais le sommeil fut de courte durée. Peu avant minuit, des cris ont de nouveau retenti. Plus terribles cette fois. Un étonnant mélange d'effroi et de ravissement, de terreur primitive et d'extase. Au loin, les créatures sombres semblaient danser autour d'un immense feu de joie, toujours plus vite et toujours plus près. Nous y sommes. C'est les lynx. La quatrième catégorie introduite par Caillois est plus surprenante. Il consacre en effet un pan entier de sa classification à une sensation que l'on n'accorde pourtant pas naturellement au jeu, à savoir le vertige. Il nomme cette catégorie les lynx. Le vertige, il le constate dans les tentatives de perte de sens procurées par le jeu. L'enfant qui tourne sur lui-même jusqu'à perdre l'équilibre, le pratiquant de sport extrême qui frôle la mort, ou plus légèrement, le joueur qui fait s'écrouler une pile de boîtes de chamboultou avec délectation. Si Caillois avait vécu jusqu'à aujourd'hui, il aurait sans doute vu dans la théorie du flow, ou de la zone, de Mihaly Csikszentmihalyi, un exemple de cette composante essentielle, visible par exemple dans le jeu vidéo. Dans le jeu de société, pourtant, on peine à première vue à trouver des exemples d'une telle sensation physique, si éprouvante pour les sens. Et pourtant. Jour 4. Faisant fi de notre appréhension, nous sommes sortis cette nuit. Nous avons enfin rencontré les habitants de cette partie du monde. Ils nous ont initiés à leur pratique, accueillant avec joie tous les types de joueurs, et même les quelques Homo Ludens cubes en bois qui nous avaient suivis jusqu'ici. Ce que nous prenions pour une frontière naturelle s'avère en réalité être un point de passage très fréquenté. C'est décidé, nous nous installons. Dans Les jeux et les hommes, Roger Caillois commence par classifier les jeux, on le saura, mais classifie aussi bien vite les civilisations. Il dresse en effet une hiérarchie entre les quatre catégories de jeux et les cultures qui pratiquent l'une et l'autre. À ses yeux, les catégories du Mimicry et de l'Ilinx sont plus primitives et moins nobles que les catégories de l'Agone et de l'Aléa. Ces dernières, plus cérébrales, élèvent en effet le joueur et la société. Chaque culture se doit alors de jouer cette, je cite, « substitution capitale qui remplace le monde du masque et de l'extase par celui du mérite et de la chance ». Puis, plus loin, on appelle cet effort le progrès. Les pratiques entrevues au sein de l'Uda Incognita m'obligent à m'élever contre cette vision, à mon avis, beaucoup trop orientée et parcellaire. Arrêtons-nous un instant. Le jeu de société, à première vue, se range davantage dans les catégories de l'Egon et de l'Aléa. Surtout dans ces versions de jeux traditionnels ou de jeux de gestion, qui peuvent sembler de l'extérieur bien arides et cérébraux. Pourtant, s'il ne s'agissait que de ces deux catégories, le jeu de société serait bien triste et peu engageant. En effet, si les échecs ou les cartes à jouer représentent rois, reines et chevaliers plutôt que des notions purement abstraites, c'est que le jeu y trouve là une autre profondeur. Dans les jeux de société modernes, le thème, l'ambiance ont pris de plus en plus de place, et le marketing n'en est pas la seule raison. Les joueurs cherchent une expérience, un moment d'évasion. Le rôle joué transforme l'expérience, qu'il soit pleinement interprété ou plus vécu comme un support des mécaniques. Une expérience le prouve. Invitez des joueurs à votre table en leur promettant une partie de jeu de gestion. Sortez alors de dessous la table une version d'un jeu célébré et apprécié, mais dont vous aurez gommé préalablement tout le thème. Les personnages sont devenus des pions, le plateau une simple grille, les cartes sont vierges d'illustrations et renommées carte 1, carte 2, etc. Les mécaniques sont toujours bien là, mais l'appétit n'y est pas. Que reste-t-il vraiment du jeu, une fois vidé de son thème ? Enfin, le vertige quant à lui n'est pas la composante la plus facile à retranscrire dans le jeu de société. Mais on peut tout de même citer ces party games qui jouent avec les sens, allant jusqu'à aveugler les joueurs, ou encore à ces jeux qui instaurent un sentiment d'urgence, qui peut paralyser ou galvaniser les participants. À bien y réfléchir, tous ces jeux où les joueurs finissent par se lever de table, le cœur qui bat la chamade, participent à ce vertige et font du jeu une expérience singulière et mémorable. Non. N'en déplaise à Roger Caillois, les quatre composantes du jeu ne sont pas ordonnées entre elles, et le jeu de société a en réalité beaucoup à apprendre et à faire vivre du côté du Mimicry et de l'E-Lynx.
Le joueur, décidément, quel étrange animal!
D'ailleurs, si les éditions E-Lynx ont choisi ce nom pour commercialiser leur ouvrage consacré au jeu, ce n'est pas par hasard. Interrogée à ce sujet, Natacha, l'une de ses fondatrices, raconte. Caillois fait référence lorsqu'on évoque les livres sur le jeu. Ayant démarré nos carrières respectives en ludothèque, où classer les jeux fait partie intégrante du métier, le clin d'œil à une classification nous faisait plaisir. Ensuite, pourquoi cette catégorie en particulier ? Eh bien justement car elle est plus large que le jeu de société. Notre maison d'édition a pour vocation de parler du jeu dans son ensemble. L'objet, jeu mais aussi jouet, l'activité, le concept, bref. On s'est dit qu'il y avait un côté vertigineux dans notre démarche que l'on a décidé de revendiquer. Ce sera donc E-Lynx Édition. Tout s'explique. Le mois prochain, nous tenterons d'atteindre le centre même du cercle ludique, sur les traces d'un autre fameux explorateur, John Huizinga. Et d'ici là, jouez bien.
Merci Acariatre pour cette chronique. Et toi Paul Gara, qu'est-ce que tu utilises pour classer tes jeux ? Comme ça rentre dans l'armoire, par couleur, par...
Alors non, j'essaie de...
par taille
Non, pas du tout. Moi j'ai pas de problème sur le fait que les boîtes de jeux soient trop grandes ou pas. Donc, je les classe par. J'essaie de les classer par thème, par thématique. Donc, tous les jeux d'enquête sont ensemble.
Ok, ouais, c'est une solution. Moi, j'ai parfois des. Je mixe les catégories dans ma ludothèque. J'ai un peu des jeux de moutons d'un côté, après, j'ai des jeux.
De moutons.
Par couleur. Et après, j'ai des jeux de. Qui sont par taille de boîte.
Mais c'est un peu pareil pour les livres. Hein. Enfin, c'est un vrai sujet, hein, le rangement. Est-ce que tu dois classer par ordre alphabétique ? Est-ce que tu dois classer par éditeur ? Si tu pourrais faire ça aussi.
Je fais par collection, hein, parce que les collections de SF, elles sont souvent quand on a des, enfin, elles sont souvent la bordure argentée, ouais. Quoi. Et du coup, ça fait beau quand elles sont toutes une à côté de l'autre, quoi.
Ouais, je vois ce que tu...
Et du coup...
Il y a un aspect visuel, donc il y a un aspect visuel.
Il y a un aspect visuel. Ouais, mais dans ma ludothèque, comme elle est dans mon salon, j'aime bien qu'elle soit visuelle. C'est pour ça que je mets des jeux debout,
ouais.
Avec des couvertures visibles.
Ouais, d'accord, ouais.
Comme ça, les...
Bah, voilà. Bah, oui, non, mais ça, c'est chouette quand tu peux le faire, quoi. Non, moi, j'essaye de classer par thème, et puis au bout d'un moment, ça finit par un classement à la Tetris, quoi. C'est comme ça rentre, où il y a un espace. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut des plus grandes maisons, quoi.
Bah oui. Je le dis toujours. Oui. C'est pas pour rien qu'on a acheté le manoir.
Bah voilà, c'est ça.
C'est pour ranger tous les jeux.
C'était l'unique prétexte à faire voilà. une ludothèque. Mais après, bon, moi j'en ai un peu ça. Enfin, oui. Après, il y a les jeux des enfants qui sont un peu à part. Il y a les jeux de quand j'étais petite qui sont aussi à part parce qu'il y en a que je veux pas trop montrer, genre la bonne paye, tu vois.
Tu assumes pas, c'est ça.
Ouais, non, voilà, j'arriverai pas me. Non, le pire étant, il y a Destin, le jeu de la vie, que je cache quand même. Je viens de l'avouer, mais que j'ai dû.
Ouais, il y a des jeux pires. Il y avait des jeux Mr. Bean ou. Je sais plus qu'est-ce que j'avais encore comme jeu à la con.
Après, il y a des jeux aussi un peu genre le Boggle, le jeu auquel je n'ai jamais joué parce que c'est vraiment
quoi
que tu connais pas le Boggle.
Quoi tu Bah si, attends, moi j'ai tout. Moi je suis fan du Boggle, non. Du Foggle, du Coggle. J'ai les trois. Je suis fan.
Moi, tout...
Enfin, c'est surtout mon épouse qui était fan et on a fait beaucoup de Boggle.
Non, moi j'avoue que j'ai été traumatisée par tous les jeux à base de lettres. Comme le Scrabble et du coup je pense que je fais un blocage complet, je suis réfractaire totalement.
Mais faut pas se tromper, hein, le Scrabble c'est pas un jeu de lettres, c'est un jeu de placement avant tout.
Ouais.
Faut prendre les bonnes places, après trouver les mots c'est accessoire.
Ouais, enfin faut-il le trouver quand même.
Oui, c'est mieux si t'en connais.
C'est mieux si c'est des vrais mots qui existent, parce que sinon c'est quand même. Tu peux dire que dans une langue extraterrestre c'est un mot très intéressant, mais ça marche pas. Enfin non, moi je fais partie des jeux traumatisants de mon enfance. Tous les jeux à base de lettres, le Trivial Pursuit et le Monopoly, c'est un peu tabou. Voilà.
Ben voilà, on a fait le tour de ces chroniques.
Ben écoute, encore merci de m'avoir invité pour présenter
rien.
Avec toi. C'est franchement, comme je le dis, c'est un immense honneur. Ouais.
Ben on pourra le refaire.
Ah ben écoute, franchement,
si
ouais, avec plaisir. Hein. Si moi, enfin voilà, j'ai trouvé ça super cool et je suis hyper contente. Et voilà, donc maintenant je viens de rougir là, je suis passée en mode pivoine.
Ah, bah voilà, on demande aux auditeurs de te mettre des commentaires sympas
ouais.
Sur le
sinon
sur le billet.
Sinon je les retrouverai, je leur casserai les genoux, donc ils ont intérêt.
Du coup, je te laisse faire la conclusion.
Eh bien, écoutez, cette chronique numéro 90 de Proxy Jeux est terminée. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. On vous encourage à devenir tipeur si vous n'êtes pas et à donner plus si vous l'êtes. Et on a plein de super idées de goodies pour vous. Donc, vraiment, ça vaut le coup de s'y mettre dès maintenant. Et puis, en attendant, jouez bien.